Cube Radio.
Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Martino.
Richard Martino.
Politiquement incorrect. Incorrect.
Cube Radio.
Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Hey, y a des gens qui ont quitté leur emploi en disant, moi, après ça, là, je vais être préposé aux bénéficiaires, je vais répondre à l'appel, pas l'appel du 18 juin de Charles de Gaulle, mais l'appel de François Legault. On a besoin de gens, on a besoin de bras. Il y a des gens qui ont quitté leur emploi en disant, allez, je vais être davantage payé, mieux protégé, je vais devenir un fonctionnaire, tout ça. Je vais être aussi formé, payé à être formé, à suivre une formation de 3 mois. Et là, on leur a promis une job à temps plein. Et là, ils arrivent là-bas, puis ils apprennent finalement qu'ils vont travailler 3 jours semaine, ou peut-être les fins de semaine. Finalement, ça va être sur appel. Il y a des gens qui sont en calvaire et on peut les comprendre. C'est tout croche. C'est vraiment tout croche. Comment ça se fait que ces gens-là ont quitté leur emploi? On leur a promis mère et monde et là, ils arrivent. Ils sont prêts à être formés. Il y a des gens qui ont quitté, là, qui ont dit, ben écoutez, là, je vais quitter la formation, ça n'a pas de sens. C'est pas vrai que je vais travailler sur appel puis je vais travailler de temps en temps les fins de semaine ou seulement 3 jours semaine. J'ai besoin d'une job à temps plein. Alors, il y a des gens qui ont quitté, malheureusement. Bref, c'est extrêmement mal foutu. Ce qui se passe avec J.K. Rowling est vraiment complètement débile. Alors, l'auteur de Harry Potter, qui, lors d'une entrevue, finalement, où je crois que c'est plus sur son Facebook, dans un texte, on disait « people who menstruate ». En parlant, people menstruate, puis elle a dit, ben, les gens qui sont menstrués, avant on appelait ça des femmes. Ce qu'elle disait finalement, c'est qu'il n'y a aucun homme dans l'histoire qui a été menstrué. Les hommes ne sont pas menstrués, c'est les femmes qui sont menstruées. Et à cause de ça, ben là, ça y a eu des backlash, mais là, ça devient de plus en plus gros, ça n'arrête pas. Alors là, il y a des gens qui travaillent chez Hachette, la maison d'édition, qui ne veulent pas travailler sur le prochain livre de J.K. Rowling, qui ont sacré le camp des employés qui ont quitté. Ma blonde, Sophie Durocher, écrit là-dessus aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Et là, il y a vraiment un mouvement en disant, ben il faut qu'elle s'excuse. Puis il y a des entrevues, il y a eu un texte dans la presse où il y avait des transgenres qui disaient que c'est épouvantable, que ses propos étaient transphobes, puis ça n'a pas d'allure, puis eux autres, c'était des fans d'Harry Potter, puis se sont sentis vraiment blessés, puis ils trouvent que c'est discriminatoire. Hey, elle a dit que c'est les femmes qui sont menstruées. Taboy, on ne peut plus dire ça maintenant. C'est une vérité scientifique. Elle ne peut plus dire ça. Et elle doit s'excuser. Elle a dit non. Heureusement, il y a des féministes qui sont allés à sa défense. Parce que là, si vous voulez vraiment là, en finir avec les hommes et les femmes, ben, la première chose à faire, c'est d'éliminer le Conseil de la femme. On n'a plus besoin de ça, Conseil de la femme du Québec. Et la Fédération des femmes du Québec, c'est terminé. On oublie ça. S'il n'y a plus d'hommes, puis il n'y a plus de femmes, si on n'a plus le droit de dire ça. Mais c'est complètement délirant, cette culture-là d'accusation, d'indignation. Calmez-vous, les petits lapins. Ils sont toujours choqués, puis indignés, puis tout ça. On peut dire des choses, des fois, là, puis arrêter de grimper au rideau, puis de demander la peau des gens, la tête des gens, la job des gens, sacrifice. Calmez-vous. Tout ce qu'elle a dit, c'est des femmes qui sont menstruées. Il n'y a aucun homme dans l'histoire qui a été menstrué, ce qui est une vérité scientifique. C'est vraiment une époque extrêmement bizarre dans laquelle on vit. Très étrange, à la fois surréaliste et inquiétante. Mais bref, heureusement aussi, Hachette, contrairement à d'autres entreprises, d'autres institutions culturelles, n'a pas plié des genoux. Puis en disant, écoutez, là, à un moment donné, là, c'est pas vrai là, qu'on va commencer à boycotter des artistes pour des propos qu'ils ont tenus, non pas dans leurs livres, mais dans leur vie personnelle. C'est totalement faux. Le droit de dire ce qu'elle veut. S'il y a des gens chez Hachette qui ne veulent pas travailler sur un livre parce qu'ils n'aiment pas ce qui est écrit dans le livre, sur lequel il devrait travailler, c'est correct, c'est une chose. Mais là, commencer à dire, là, moi, je veux pas travailler sur le prochain livre de J.K. Rowling parce qu'elle l'a écrit sur sa page Facebook ou elle le dit lors d'une entrevue radio ou lors d'une conversation personnelle. Calmez-vous le pompon. Christy, c'est quoi cette chasse aux sorcières-là qui est complètement délirante? Vous écoutez Politiquement Incorrect.
Martineau. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours.
Vous écoutez
Politiquement Incorrect.
Non, je crois que la façon la plus sûre de tuer un homme, c'est de l'empêcher de travailler en lui donnant de l'argent.
Oh, je crois que Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, veut nous parler du PCU. Parce que c'est ça, c'est exactement ça. La meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à rester chez eux.
Bon matin, Richard. Bonjour. Écoute, j'adore cette chanson. Effectivement, c'est celle qui décrit le plus la PCU, là, qui décourage vraiment là, les gens à accepter ou à aller voir pour se faire embaucher là, dans les manufactures au Québec. Écoute, on a parlé hier à deux manufacturiers. Un qui est dans le domaine des cloisons pour entreprises, là, puis on s'attend à ce que la PCU, la pandémie, la question de cloison dans les bureaux va être importante. Lui, ses affaires vont très bien, sauf qu'il est pas capable de trouver personne et il comprend pas qu'avec un taux de chômage de 14%, qu'il soit pas capable d'avoir au moins des CV. Puis t'as une autre entreprise qui est dans le secteur manufacturier des portes et fenêtres, qui a fine pointe de la technologie, qui offre 16 $ de l'heure, puis rendu à 1000 heures, t'as 20 $ de l'heure, puis il trouve personne. Donc, dans le fond, là, ouais. Quand Macron avait dit, en France, ils ont nationalisé le salariat, mais moi, je pense que Trudeau a nationalisé les vacances d'été pour bien des Québécois. Et ce qui est décourageant, c'est que tu sais là au moment où ce que tu sais l'économie est bon, c'est fini la pause, les gens vont reprendre tu sais l'activité, puis il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce qu'il y ait une forme de petite reprise à l'automne, mais la production doit commencer maintenant. Et donc c'est maintenant qu'ils ont besoin des gens, c'est maintenant qu'il faut qu'ils sortent la marchandise. Donc les manufacturiers exportateurs ont dit ce matin là, que c'est important là. C'est que Trudeau revise ça, puis que dans le fond, là, la valeur ou la pleine valeur de la PCU, là, tu devrais l'obtenir uniquement si tu acceptes de retourner au travail, comme l'assurance.
Ben, exactement. Là, si tu es apte à retourner au travail, ben là, il faut que tu ailles travailler. Parce que là, il y a comme deux mouvements contraires. D'un côté, on veut jumpstarter l'économie. Excuse-moi l'expression anglaise, mais on veut donner un coup à l'économie. Mais de l'autre côté, avec cette mesure-là, ça nous empêche justement de partir à pleine vitesse au point de vue économique. Ouais, ça n'a pas de sens.
Puis oublie pas, il y avait la fameuse subvention salariale aussi aux entreprises, tu sais, qui permettait de financer 75% du salaire s'ils gardaient le lien d'emploi avec l'entreprise. Mais beaucoup d'entreprises ont beaucoup moins utilisé ce programme-là que moi je pensais. Donc ça veut dire que la réalité, c'est que les entreprises continuent leur activité parce qu'ils peuvent pas complètement arrêter. Mais là, il y a des employeurs qui rappellent leur monde, mais en plus, ils doivent en recruter puis engager. Puis là, il manque de monde. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent moi, je vais attendre en septembre avant de me chercher une job pour profiter de l'été.
Tout à fait. En parlant de job, je parlais de ça tantôt. Là, les gens qui ont quitté leur emploi pour devenir préposés aux bénéficiaires et là, qui se rendent compte que c'est pas une job à temps plein, qui vont seulement travailler sur appel, 3 jours semaine ou seulement les week-ends. Écoute, il y a des gens qui sont tombés de haut, là.
Ah ouais. Puis, ben moi, je pense qu'il y a encore des dans le milieu économique actuellement, puis dans les PME, il y a des bonnes jobs aussi. Tu sais, pour des gens là, qui, même lui, tu vois, il offre déjà 15 $ de l'heure, là, tu sais, même sans grande formation. Fait que quelqu'un qui a le goût de travailler, là, c'est pas des jobs qui va manquer là, dans plusieurs secteurs.
Et d'ailleurs, Mario Dumont, dans sa chronique aujourd'hui dans le Journal de Montréal, qui parle des travailleurs agricoles, on sait que le Mexique veut plus nous envoyer là, des travailleurs agricoles, pas trop en tout cas, parce qu'ils jugent que c'est trop dangereux pour leur santé. Donc là, on se retrouve avec un manque de personnel dans les fermes et les Québécois semblent pas très, très intéressés à ce genre de job-là. Donc, il y a peut-être des fruits qu'on va perdre, des fruits et légumes qu'on va perdre. C'est pas évident sur le front économique.
C'est pas évident de l'emploi. Là. Moi, je voudrais pas être un chef d'entreprise aujourd'hui qui doit, ou quelqu'un qui est maraîcher, là, qui doit s'arracher les cheveux pour pas s'arracher les légumes sur la tête là, pour être capable d'avoir des travailleurs.
Là, tu veux nous parler de Franco Dragone. Franco Dragone, on sait que Guy Laliberté serait intéressé à racheter le Cirque du Soleil. Un de ses partenaires, c'est Franco Dragone, avec qui il avait fondé le cirque à l'époque. Mais là, il y a des accusations très sérieuses portées contre M. Dragone.
Oui, enfin, moi, le slogan de Jean Coutu m'est revenu à la tête avec cet article-là. C'est, chez Jean Coutu, on trouve toujours un ami, là. Écoute, lui, là, c'est un metteur en scène connu, tu sais, qui a quand même été avec Guy Laliberté pendant quelques années, et qui s'est même exprimé, tu sais, déjà, tu sais, pour son intérêt à appuyer la démarche du cirque, tu sais, de racheter, de permettre à Guy Laliberté de racheter le cirque. Or, imagine-toi, on a appris par un hebdomadaire belge qu'il fait actuellement, il est accusé, là, il est encore pas coupable, là, d'une affaire de fraude puis blanchiment d'argent de 30 millions de dollars. Et encore, ça revient toujours la même chose, c'est tout lié à une société dans les paradis fiscaux aux îles Vierges britanniques, avec une compagnie qui ont installé là-bas pour justement sauver de l'impôt. Donc c'est pas nouveau, hein.
Et la structure. On parle de blanchiment d'argent aussi, hein, c'est ça?
Ah oui, oui. Écoute, je regarde l'ensemble des. Tu sais, il s'est fait saisir ses biens en 2015. Écoute, c'est une enquête là, qui est très, très importante en Belgique. Et là, c'est drôle parce que tout récemment, à la fois Guy Laliberté, lors d'une entrevue à Tout le monde en parle, avait dit que tu sais, il saluait cet appui-là de Franco Dragone. L'autre affaire, c'est même Franco Dragone avait fait une entrevue avec Stéphane Bureau là, le 5 juin, dans laquelle il disait c'est important de venir appuyer là, Guy Laliberté, tout ça. Et là, hier, on a appelé Guy Laliberté, ceux qui sont sur ses porte-parole. Et là, tout à coup, il y avait comme une distance qui s'est établie en quelques heures. finalement, il a peut-être perdu un ami.
Ben oui, un ami, un partenaire, quelqu'un qui avait de l'argent puis qui aurait pu l'aider justement à acheter le Cirque du Soleil. Donc, et Franco Dragone, s'il est jamais reconnu coupable, c'est de lourdes peines de prison là, qui risquent.
Ah oui, ça peut jusqu'à être à la prison. Là. Donc, tu sais quand ici, là, au Canada, là, on n'est pas très, très fort sur pénaliser les gens qui font de la fraude fiscale, tout ça. Là. Si tu étais aux États-Unis, en Europe, là, je peux te dire que les organismes réglementaires, puis
on n'y est pas avec ça.
Non, ils poursuivent davantage que nous.
Oui, ils prennent fort au sérieux. Et là, tu veux nous parler de Bombardier. Est-ce qu'un jour, on va redevenir fiers de Bombardier?
Écoute, celle-là, je l'ai trouvée vraiment drôle. Mais Martel qui demande de qu'on soit fier de Bombardier. Écoute, c'est comme ça, je pense à un ado, tu sais, qui dit là, jamais là, je ferai de coup, là, tu sais, sois fier de moi. Deux minutes plus tard, il fait un mauvais coup. Écoute, il nous dit que c'est important d'obtenir la fierté, puis deux minutes plus tard, malgré l'opposition de la caisse puis de tous les fonds d'investisseurs, il accepte à 95% la prime millionnaire de 17 millions à Alain Belmont.
Mais à quoi ça servait donc de demander à la caisse qu'est-ce qu'il en pensait, puis de demander aux actionnaires ce qu'ils en pensaient, si de toute façon, on dirait que leur idée était faite, puis ils l'accordaient de toute façon?
Ben l'idée, c'est que je pense que c'était pour la vertu, parce que la réalité, c'est que la caisse, comme toutes les autres institutions, savent très, très bien que ceux qui contrôlent encore Bombardier, c'est les Baudouin et Bombardier qui sont les actionnaires avec les actions multiples. Donc, c'était sûr que c'était pas passé. Dans le fond, c'était l'idée de se monter vertueux, mais la réalité, c'est qu'ils savaient très bien que à la fin, ça finirait par passer parce que c'est pas eux autres qui ont le gros bout du bâton.
Moi, j'en reviens pas. J'en ai déjà parlé à Michel de ça, Michel Gérard. C'est-à-dire que, bon, les primes, les bonnies, ça devrait être attaché à ta performance. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça. Ce sont des bonnies de performance. Si tu performes bien et si tu permets à tes actionnaires de faire de l'argent parce que tu fais augmenter la valeur de leurs actions, c'est bien correct. Peut-être que tu mérites ton bonus. Mais si tu fais perdre de l'argent à tes actionnaires, ben, tu m'as dit pourquoi on te récompenserait pour ta performance. C'est une piètre performance.
Non, non. Écoute, la rémunération, là, dans le cas de Bombardier, parce que dans d'autres secteurs, je pense que la rémunération, souvent, est vraiment liée à la performance.
OK, j'espère.
Mais dans son cas, là, c'était vraiment désastreux. Puis ceux qui ont signé le contrat avec lui à l'époque, ben aujourd'hui, il doit s'en mordre les doigts. Là. La réalité, c'est que en plus de ne pas avoir performé, ben, il a quand même démantelé, comprends-tu, sous l'ordre probablement de l'actionnaire, une institution, un fleuron du Québec. Écoute, il a vendu complètement le CCRI à $0 à Airbus. Il a quand même rationalisé puis a coupé bien des jobs. En plus, on a pu Bombardier Transport qui a été vendu ou qui s'apprête à être vendu à Alstom. Puis en plus, c'est nous autres qui l'ont sauvegardé pendant des années avec les milliards du gouvernement du Québec.
Mais donc, oui, c'est ça, parce que si Bombardier peut se permettre de donner des bonnies comme ça de 17 millions de dollars à son ancien directeur général, c'est parce que c'est notre argent, c'est parce qu'on a sauvé le cul de Bombardier avec l'argent public. Donc, il y a, tu sais, comme on disait, de la soupe habitant, là, il y a un peu de nous autres là-dedans. Là.
Il y en a pas mal. Puis, puis l'autre affaire, c'est que quand même, bon, même cette division-là aussi de Bombardier, là, qui est seulement les jobs d'affaires aujourd'hui au Québec, là, il y en demeure pas moins que, tu sais, c'est plus de 10 000 emplois au Québec. Là. Fait que c'est sûr que puis on n'est pas les seuls à travers le monde à aider nos entreprises de compagnies aériennes puis de transport aérien là, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait des conditions attachées. Tu sais, tu peux pas donner de l'argent à des entreprises puis s'ils ne respectent pas un certain nombre de conditions, dont probablement la rémunération de ces dirigeants pour s'assurer qu'ils partent pas avec l'enveloppe là.
Ben oui, écoute, c'est quand même notre argent. On donne de l'argent pour sauver Bombardier, puis là, ils pigent dans les cadeaux qu'on leur donne, dans les subventions qu'on leur donne pour donner un bonus de 17 millions de dollars à quelqu'un qui a mal performé. C'est tellement scandaleux et c'est le manque de gêne là-dedans. Hein? Tu habituellement, garde-toi une petite gêne. Les autres, pas en tout. Là, tu feras tout le tour de la tête. Ah ouais, on va te le donner, ton bonus. Puis c'est vraiment, je pense que ça va prendre du temps en maudit avant qu'on redevienne. Exactement. Écoute, merci beaucoup. Bon été, Yves. Hey, c'est notre dernière. Bon été, profites-en bien. Merci beaucoup, Yves Daou, directeur de la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec.
Politiquement incorrect. À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio.
Ça prenait du temps avant qu'il nous parle, Richard.
Voilà, bonjour, comment ça va? Je veux te présenter mon nouvel ami. C'est mon nouvel ami. Il s'appelle Montréal. Écoute, si t'en veux un, il y en a plein dans les rues comme ça, mais il est vraiment, c'est un dépendant affectif parce qu'il est partout, OK, là? Je vais faire du shopping, il est là. Je vais aller au resto lundi, il va être là. Je sors de chez moi, il est là. Je rentre à la job, il est là. Il est fantastique. J'ai décidé de la porter ici, là. Donc, il s'appelle Montréal. Je l'aime beaucoup.
C'est excellent. Oui, on voit que tu es attaché.
Oui, très attaché. Il y en a beaucoup. Ça va être l'enfer. Hein? Ça va être l'enfer cet été à Montréal. Mais vraiment, là, oui, si vous êtes à l'extérieur de Montréal, venez pas nous voir. Vraiment, ouais. Là, restez chez vous.
Mais une chose est sûre, Richard, par exemple, tant qu'à faire des travaux, là, faisons-les cet été, oui. Parce que c'est sûr qu'il n'y a pas d'événement, il y a beaucoup moins de choses. Je sais que les commerçants ont besoin de notre support, par exemple, mais quand même, tant qu'à choisir un été pour mettre des cônes oranges, c'est peut-être le meilleur été dans l'été.
Exactement, c'est le meilleur été. Il est discret, il est tout petit, hein? Il est vraiment le fun.
Ben oui, c'est vraiment, c'est spectaculaire. Hey, tu penses, Richard, que Jack Meetsing doit s'excuser à la suite là, des insultes de racistes qu'il a lancées à l'intérieur?
Moi, je suis très choqué de ça, parce que là, ce qui circule dans certains médias sociaux, c'est que le Bloc québécois aurait refusé de reconnaître qu'il y a du racisme systémique dans la GRC, mais faut mettre ça dans le contexte, là, OK? Le Bloc québécois venait de voter pour une motion en disant, est-ce qu'on va demander demander au comité d'éthique de se pencher sur l'existence du racisme systémique au sein de la GRC. C'est-à-dire que il va avoir une enquête d'un organisme indépendant, le comité d'éthique, puis après ça, on verra s'il y en a ou pas. Et tout de suite après, on demande au Bloc, est-ce que vous reconnaissez l'existence du racisme systémique? Et là, ils ont dit non. Mais ils ont dit non parce que ils disent, regarde, il va y avoir un comité qui va se pencher là-dessus. On verra. On peut pas se prononcer avant que le comité se penche là-dessus. Il y a un comité indépendant, puis après ça, bon, selon ce que le comité va trouver, après ça, on va dire si oui ou non il y a du racisme systémique. Donc, ils ont dit non, non, non. Selon nous, il y en a pas. Et là, les accusations de racisme comme ça, je comprends là, qu'il faut lutter contre le racisme, il faut combattre le racisme, mais là, à un moment donné, c'est un mot qui est lourd de sens. C'est une accusation qui est lourde de sens. Et quand t'es obligé, toi, de dire « Non, je suis pas raciste, là. » Déjà, t'as l'air fou. Déjà, on dirait que t'es sa défensive. Déjà, tu sais, ça laisse des traces. Il y a des gens qui vont dire « Il y a pas de fumée sans feu. Comment ça se fait que le chef du NPD a traité le Bloc de racisme? » Et je trouve ça vraiment inacceptable. Ce sont des accusations. Quand quelqu'un t'accuse de racisme, c'est très grave. Faut pas banaliser l'utilisation de ce mot-là, l'utiliser à toutes les sauces. Donc, M. Jack Meeting, selon moi, devrait s'excuser. Le Bloc n'est absolument pas raciste. Le Bloc dit on est d'accord, on veut qu'il y ait un comité qui se penche là-dessus et après ça, on verra selon les conclusions du rapport. C'est vraiment, il fait preuve de mauvaise foi. Je comprends là, que lui a peut-être souffert de racisme dans sa vie il est très à fleur de peau sur cette question-là, mais quand même, là, il laisse sous-entendre que le Bloc est raciste. C'est inacceptable.
C'est une très grosse insulte ben, à utiliser, à de traiter quelqu'un
énorme,
de raciste.
Oui, tout à fait.
Par ailleurs, Richard, toi, tu penses qu'il faut déconfiner nos aînés?
Écoute, on vient de déconfiner les jeunes. Je te voyais tantôt parler avec le docteur Jean-François Chicoine. Écoute, qu'on a imposé la distanciation sociale des enfants de 2 à 4 ans, c'est surréaliste. Je veux dire, moi, je ne peux pas comprendre ça. On a déconfiné les jeunes. On déconfine tout le monde. On s'en est déjà parlé. Moi, je trouve que les aînés sont les grandes victimes. Bien sûr, ils sont très vulnérables, mais il y a des gens qui sont en forme et tout ça. Il faut leur permettre de sortir, bon Dieu. Déjà que c'est difficile quand une personne âgée, t'es souvent seule. Je parlais cette semaine à la directrice générale des Petits Frères, qui est un organisme fantastique qui lutte à combattre l'isolement chez les personnes âgées. Et là, elle me disait, déjà en temps normal, ces personnes-là sont isolées, mais là, elles le sont encore deux fois plus. Et tu sais qu'il y a des résidences pour personnes âgées. Je te parle pas de CHSLD, là, mais des résidences où les gens sont en forme. Et il y a des salles communes dans ces résidences-là. On joue au bingo, on joue aux cartes. Ces gens-là vivent, ils ont hâte au soir. Là. Ils ont hâte de se rendre là, toute la gang, puis jouer ensemble. Ces salles communes-là sont souvent fermées. Alors, parce que pour protéger les personnes âgées, mais écoute, moi, je vais voir ma mère une fois par semaine et je parle aux autres personnes qui demeurent dans ces résidences-là. Ils dépriment, là. Ils sont déprimés. Écoute, là, ils ont besoin de jouer ensemble, de jouer aux cartes. Il y en a même qui se cachent pour jouer aux cartes là, en cachette. Des délinquants, des rebelles, des révolutionnaires. Là. Ils se cachent pourquoi? Pour jouer aux cartes. S'il vous plaît, pouvez-vous déconfiner les personnes âgées? Ça n'a aucun sens. On est en train là, de causer des problèmes de santé mentale, à la limite, là, graves chez ces personnes-là.
Ouais, c'est effectivement très difficile à vivre pour ces gens-là. Ah, on trouve un petit peu de normalité dans les circonstances, surtout dans un milieu, par exemple, lorsqu'on a une résidence pour personnes âgées qui est fermée. Entre elles, ces personnes-là, il n'y a pas de problème.
Ben
ils
non.
peuvent se fréquenter.
Ben
ou,
oui,
ils n'ont pas de contact avec personne.
Jouer à pétanque à l'extérieur, jouer aux poches, jouer aux cartes ou quelque chose comme ça. Là. Mais bref, ils s'ennuient énormément. Puis ils n'ont pas tous la chance d'avoir un ami comme moi. Ici, là.
Je trouve que ça termine bien la saison, Richard, parce que là, nos chemins se séparent.
Bien oui, on va se retrouver, j'imagine, fin août, début septembre. Mais là, je pense, excellent été à tout le monde. Écoutez, profitez du soleil, profitez de la vitamine que ça vous apporte, parce qu'on ne sait pas quel genre de rentrée on va avoir. On ne sait pas s'il va y avoir une deuxième vague. On reste prudent. Et M. Legault, s'il vous plaît, rendez le masque obligatoire dans les transports en commun. On vient de le faire à Toronto. Je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas à Montréal, qui est l'épicentre au Canada de la pandémie de COVID-19.
De plus en plus de gens font pression, effectivement, pour que ce soit obligatoire. Ben oui, Richard, passe un bel été.
Bon été,
on se retrouve à la fin de l'été. C'est Pierre Nantel qui va être là dès lundi.
Tout à fait. Salut.
Ici Marie-Christine.
Richard Martineau.
Politiquement incorrect.
Cube Radio.
Il y a beaucoup de nouvelles sur le front juridique. On va en parler avec Maître François-David Bernier, avocat, analyste judiciaire, animateur de l'émission Avocat à la barre, ici le samedi et dimanche à 11h à Cube Radio. D'ailleurs, François-David, est-ce que tu vas avoir ton émission cet été?
Non, je prends un petit break cet été.
Tu prends un petit break, donc là, on ne pourra pas écouter ton émission ce week-end.
Ah oui, une dernière. Oui, désolé. C'est la dernière ce week-end.
OK, écoute, on va parler du procès de Nathalie Normandeau. Est-ce qu'on s'en va là, vers un arrêt Jordan, puis on va tirer à plein sur ce procès-là? Là? C'est l'impression qu'on a tout le monde.
Allez, c'est le procès Normandeau, là, c'est jamais vu. Là. C'est le bordel. On ne peut pas dire d'autres mots. C'est le bordel parce que c'est vraiment... c'est la deuxième fois qu'on essaie de dire que les délais sont déraisonnables en vertu de Jordan. La première fois, ça n'avait pas passé. Mais là, depuis, là, les délais s'allongent. Puis, en plus, Nathalie Normandeau, depuis le début, dit qu'elle veut un procès rapide. Elle veut être jugée parce qu'elle, évidemment, a subi tout un préjudice. Le bûcher de l'opinion publique, la démolie, elle veut être blanchie dans tout ça. Mais c'est pas fini, là. Quand on dit que on essaie de voir, la défense prétend qu'il y aurait eu des fuites médiatiques orchestrées, dans le fond. Tu sais, on le sait au Canada, là, le pouvoir judiciaire, exécutif, puis législatif, exécutif. Et là, quand un se mélange avec l'autre, ça veut dire que si le politique fait une exécution, dans le fond, se sert du juridique pour arriver à des fins, ben là, c'est très grave dans notre système. C'est digne des républiques de bananes, c'est digne des dictatures.
Mais là, ça fait combien de temps que ça traîne?
On va voir, est-ce que ça vient de la haute direction de l'UPAC? Ouais.
Ça fait combien de temps que ça traîne, cette affaire-là? Là?
Hey, ça fait... j'ai pas les dates exactes, mais je pense que ça dure depuis... tu sais, Jordan s'est rendu qu'il faut que ça soit à peu près 30 mois, là, puis là, on est dans 5 ans, je pense.
Je sais pas, est-ce que tu peux travailler quand tu as des accusations comme ça qui pèsent sur toi? C'est extrêmement difficile pour elle de se trouver un autre travail tant que c'est pas réglé, cette histoire-là. Et là, elle a l'épée de Damoclès au-dessus d'elle. Pendant ce temps-là, vraiment, puis elle veut collaborer, elle le dit, puis elle veut un procès, puis elle veut pas s'en sortir, puis tout ça, mais à un moment donné, là, arrêter le tataouinage, là, ça peut pas durer longtemps comme ça. Je peux tout à fait la comprendre, Mme Normandeau.
Ben oui, hey, honnêtement, c'est la souffrance, ça. C'est carrément de la torture. Là. Imaginez, là, puis ça, c'est l'exemple parfait que dans notre système, quand tu es accusé, c'est comme si tu étais condamné.
Ben oui.
C'est l'exemple parce que tu as été jugé déjà à ta place publique. Et c'est tout le problème de la. Du dossier qui on se rappelle, on veut savoir les sources de Marie-Maude Denis, là, à savoir pourquoi il y a eu des fuites dans les médias. Mais c'est sûr qu'elle, ça la magane. Là. On ne dira pas l'inverse.
En même temps,
comment vous imaginez que ça vous tombe dessus? Là? Moi, je l'avais eu en entrevue. Elle m'avait expliqué la journée que les policiers étaient débarqués chez elle, puis sa vie basculée. Et là, elle doit subir ça, puis ça finit plus de finir. Là.
Si en même temps le procès est avorté parce qu'à cause de l'arrêt Jordan, t'imagines ce que certaines personnes vont dire. On sait bien, ils s'en sortent toujours, les politiciens, ouais, la corruption, puis tout ça, puis il va toujours rester autour de Mme Normando comme un nuage de suspicion, mettons.
En plein ça, tu as totalement raison, mais moi, je l'ai souvent dit, c'est triste, parce que s'il y a un arrêt de procédure, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire qu'elle s'est servie de l'arrêt Jordan pour s'en tirer. Mais c'est ça qui est... Sauf que comment on peut dire à quelqu'un, elle a un droit, il y a des droits qui sont dans l'arrêt Jordan qui fait qu'on a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Comment dire à quelqu'un... écoute, va vraiment à procès, là, t'as des droits de ce côté-là, mais utilise-les pas pour sortir de là. Tu sais, c'est inhumain de dire.
Ben
ça,
non, donc, c'est pas possible. Oui. En même temps, il y a bien des gens qui disent pourquoi elle, pourquoi rien qu'elle. Ils étaient tous comme ça, les ministres. Là, dire, tu sais, on dirait qu'ils l'ont jeté en dessous des roues de l'autobus. Là. Dire, il y en a d'autres ministres aussi qui devaient rapporter 100 000 piastres par année, là, puis qui avaient de la pression, là, puis tout ça. On dirait qu'elle paye pour tout le monde.
Mais c'est en plein ça, puis des fois, on dit ça, puis on fait seulement alléguer ça, puis tu sais, c'est du complot. Mais dans ce dossier-là, j'ai jamais vu ça, des hasards, tu sais. Mise en accusation la journée du budget, après ça, ça aurait été devancé, ça aurait été devancé. On prétend des fuites médiatiques de la haute direction, parce que c'est là-dessus que Maître La Rochelle, l'avocat de la défense, d'un des éco-accusés, ce bas, ils sont allés jusqu'à la Cour suprême pour avoir que les sources soient dévoilées, ils veulent y retourner. Donc, il y a tellement de hasard dans ce dossier-là qui fait on se demande pourquoi, puis est-ce que c'est une sorte d'exécution politique par le pouvoir judiciaire, parce que le pouvoir judiciaire, il y a le bras long, là, quand t'es accusé, là, t'es hors-jeu, là, automatiquement. Donc, c'est toutes des questions qu'on se pose, puis j'ai hâte de voir l'arrêt de Jordan, on se rappelle, hein, c'est les délais, là, c'est seulement les délais qui sont causés par la couronne là, qui quand elle poursuit. C'est que en ce moment, c'est des délais qui sont un peu par la défense, mais par le système, parce qu'on est monté une fois jusqu'à la Cour suprême, on va sûrement y retourner. Mais là, c'est pour ça qu'on va voir si ça fonctionne ou pas. Mais dans le principe, je pense que on est là.
C'est vrai que c'est quand même la défense aussi qui est un peu responsable de ces délais-là. Écoute, il y a une autre affaire, il y a un groupe de citoyens qui veut poursuivre le gouvernement du Québec pour sa gestion de la crise de la COVID-19 en disant qu'on a trop confiné, on a fermé des secteurs entiers de l'économie, que c'était épouvantable, c'était improvisé. C'est Maître Guy Bertrand qu'on connaît tous, qui représente ce groupe de citoyens-là. Écoute, quelles sont les chances que ça se rende effectivement en procès, ça? Nul, non? Ben,
ça va aller en procès. C'est ce qu'on appelle un contrôle judiciaire. Il prétend que la loi est mal faite, puis que le gouvernement a été trop loin dans l'application des pouvoirs que la loi y donne. J'ai eu une entrevue avec M. Bertrand là-dessus, puis il disait que ce que le groupe aimait pas, c'est que c'était seulement blanc. Là. Tout le monde était du côté du gouvernement. Il a un peu accusé l'opposition de pas avoir posé plus de questions. Il prétend que les droits et libertés, on peut pas... Il faut, avant de prendre des décisions, il faut vraiment qu'il y ait des débats. Il prétendait qu'il n'y avait pas assez de débats. Ce que j'ai compris, c'était pas de temps de dire que le gouvernement aurait pas dû confiner. Là. Okay. Mais honnêtement, moi, je ne suis pas de cet avis-là. Il y avait un autre avocat aussi qui avait fait une procédure pour annuler le confinement. Moi, je suis partisan des droits et libertés. Il m'a amené là, quand il n'y a personne qui va dire bon que je pense pas qu'on peut dire que le gouvernement est allé trop loin. C'est une pandémie mondiale.
Ben c'est ça. Puis chaque
mondial.
Ouais. tous les gouvernements partout sur la planète ont un peu improvisé. Hein. Chacun avait ses mesures, puis tout ça. On savait pas, on connaissait pas le virus. C'est facile maintenant qu'on en sait un peu plus de dire il aurait dû faire ça, puis il aurait dû faire ça. Mais à l'époque, quand on était dedans, veut dire, tout le monde essayait de faire de son mieux. Je pense qu'on peut, on peut pas accuser le gouvernement là, qui a pas voulu faire de son mieux. C'est certain que, bon, on était dans l'inconnu. C'est très difficile de dire ils ont mal fait leur job, là, puis on va les poursuivre pour ça.
Ah ben oui, Richard, j'aurais pas voulu être des culottes de à Tudaruda parce que chaque jour il avance, c'est totalement inconnu. Mais on savait qu'après coup, il y en a qui allaient dire ben voyons, il aurait dû. Tu sais, on se cachera pas que ceux qui font ça, c'est des gérants d'estrade, tu sais, tout le monde, les auditeurs, toi, Richard, tout le monde, on a connu des gens de même dans notre vie. On fait des choses, on essaie d'avancer, on essaie de prendre des décisions, puis ils sont tout le temps là. Quand tu réussis, ils disent « Ah, je savais que tu allais réussir. » Quand tu réussis pas, ils disent « Ah, je savais que ça allait pas marcher. » Donc, c'est ça l'appel des gérants d'estrade, puis l'inconnu, là, c'est très difficile, puis prendre les bonnes décisions, puis prévoir ce qui va se passer. C'est sûr que quand il va avoir le post-mortem là, de tout ce qui s'est passé, on va pointer du doigt certaines choses.
Mais donc, il n'y aura pas vraiment de procès, là. Ça ne se rendra pas jusqu'au procès.
Le procès, s'il lâche pas, il y aura procès, mais ils ont quasiment pas de chance de succès parce que dans la loi sur la santé publique, là, il y a une belle clause qui dit si le gouvernement, qui protège justement cet inconnu-là dans le cas de crise et tout ça, ils disent que si le gouvernement prend des décisions de bonne foi, ben, il y a une immunité, il ne peut pas être poursuivi.
Bon, c'est ça. Donc,
il ne sait pas ce qui va arriver.
Ben, c'est ça. Donc, puis il a pris des décisions de bonne foi, donc il ne pourra pas être poursuivi. Donc, ça va faire put. Je veux t'entendre sur un autre cas, là. Tu sais, tu as certainement suivi ça. Il y a un gars qui est à la tête d'un groupe qui s'appelle Atalante, qui est un groupe nationaliste d'extrême droite. Et ils étaient beaucoup critiqués par les journalistes de Vice. Vice, qui est un média qui faisait beaucoup de reportages critiques sur Atalante. Et à un moment donné, ce gars-là, il est rentré dans les bureaux d'Atalante accompagné d'amis masqués pour remettre un prix, le prix poubelle aux journalistes qui le critiquaient tout le temps. Il est rentré là, dans la salle de rédaction. Et là, il y a eu des accusations portées contre lui, bien sûr, pour, menaces, harcèlement, etc. C'est ça, intimidation et tout ça. Et là, la juge qui l'a innocenté en disant, ben c'est sa liberté d'expression, il a le droit de s'exprimer. Attends une minute, là. Je veux dire, il y a un côté sacré dans une salle de rédaction, là, de voir des gens armés rentrer en trombe dans une salle de rédaction et se diriger vers toi quand tu es journaliste. Lâchez-moi la liberté d'expression, là. Qu'est-ce que t'en penses de ça?
Non, on n'est pas dans la liberté d'expression. Je veux dire, ça, c'est une entrée par infraction. C'est des menaces. Il n'y a pas de liberté. Tu sais, la liberté d'expression, il faut arrêter de penser que ça n'a pas de limite. Il y a des règles, tout ça. S'il voulait s'exprimer, il aurait pu le faire autrement. Puis, tu sais, rentrer dans un lieu, là, puis menacer comme ça, c'est... Et si on remonte à l'époque, là, dans l'ancien temps, comme on dit, l'entrée par réfraction, là, dans une salle de nouvelles, mais mettons dans une résidence, là, dans ton cocon, là, c'était aussi pire qu'un meurtre. C'est des places que tu es supposé être en sécurité, que ce soit au travail, chez toi. Donc, quelqu'un qui force pour rentrer puis qui menace, c'est très grave.
Parce que ce gars-là...
J'ai même pas tout suivi ça. Hein?
Ce gars-là dit, oui, mais j'avais pas d'intention maligne. Là, j'avais un sourire. Puis c'était... Je voulais faire comme une blague. Mais regarde, le journaliste qui l'a vu venir là vers son bureau avec ses amis masqués, il savait pas, lui. Il connaissait pas ses intentions. Il a eu peur, ce gars-là, ce journaliste-là. Avec raison.
Ben oui. Parce que l'intention, c'est... Une blague, là, qui est du mauvais goût, c'est sûr, si tu prouves que vraiment c'était seulement une blague, si quelqu'un de raisonnablement constitué aurait pu comprendre que c'est une blague, il n'y aura pas d'intention criminelle, ça ne sera pas un crime. Mais il ne faut pas être dupe non plus, dans le sens qu'il savait très bien qu'en faisant ces gestes-là, puis en entrant comme ça, qu'il y a des gens qui allaient penser que c'était sérieux. T'sais. C'est comme si je donne un coup de couteau dans le cœur à quelqu'un et dis, ben, pensais pas le tuer, tu sais. Eh oui. Ça marche pas.
La juge qui l'a innocenté, le message qu'elle envoie, pas dire, je veux pas envoyer le message comme quoi que c'est correct d'entrer dans la salle de rédaction, mais veux pas le message qu'elle envoie à l'innocentant, en disant que c'est la liberté d'expression, ben c'est ça le message qu'elle envoie. Vous êtes pas content du traitement d'un journaliste, rentrez dans la salle de rédaction puis allez le voir directement son pupitre.
J'ai même pas suivi ça, mais c'est révoltant d'avant ça parce que il est arrivé des drames comme ça, puis il y a des gens mal intentionnés. On parle de sa reliée de dos, c'est arrivé des drames. Donc l'exemple n'est pas donné. Ça se fait pas. C'est des milieux qui les gens vont être un peu plus controversés. Puis imaginez, on sait pas qu'est-ce que quelqu'un peut faire. Même des fois, il y en a qui rentrent avec pas d'intention, puis ça peut mal tourner.
Ben oui.
L'exemple n'a pas été donné, comme on dit.
Et là, en terminant, bien sûr, on a eu le procès là, de Salvay là, qui va avoir lieu. Et là, il va y avoir Rozon. Puis là, Boisclair. Boy, c'est quelque chose.
Boisclair. Ça tombe. Là, il y a des accusations d'agression sexuelle armée. Pour ceux qui se demandent pourquoi c'est une agression sexuelle armée, mais moi, ce que j'en comprends, c'est qu'il était deux personnes. Il y aurait été deux.
Oui, mais l'autre, il n'y a pas eu d'accusation. Là. Il est tout seul, là, Boisclair, à être accusé. Est-ce que son comparse, son complice va être accusé aussi?
Ça se peut. Mais je ne sais pas s'il va être accusé, mais je sais que quelqu'un qui commet une agression sexuelle puis avec une autre personne, c'est automatiquement une agression sexuelle armée.
Okay.
Parce que l'autre personne peut servir comme d'un... Tu sais, quand t'es armé, t'es intimide. Si une autre personne n'a pas intimidé pour faciliter l'agression, si on peut dire. Fait que là, je sais pas pourquoi l'autre n'est pas accusé. C'est-tu qui... Je veux pas être dégueulasse. Au Canada, si tu participes pas positivement à un crime, des fois, t'es pas... si tu fais seulement regarder, tu peux ne pas être accusé parce que t'as pas facilité la chose. Désolé pour les cas sensibles, mais je sais pas pourquoi l'autre n'a pas été accusé. Et André Boisclair, puis là, il y a une nouvelle plainte qui est déposée. Encore une fois, c'est une plainte, c'est pas des accusations. C'est à suivre, à savoir si c'est fondé. Là,
c'est ça, on va voir si le directeur des poursuites criminelles va retenir cette plainte-là et porter des accusations formelles. Donc, il faut tout le temps le dire, hein, la présomption d'innocence est très importante. On est innocent jusqu'à preuve du contraire. Merci beaucoup, François-David Bernier. On t'écoute ce week-end. Puis après ça, passe un excellent été. Repose-toi bien.
Merci beaucoup, Richard. Bon été à toi aussi et à tes auditeurs. Bye bye.
Merci, bonne journée.
Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
Alors, nous parlons à Steve Fortin, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Steve.
Eh bien, les vacances s'en viennent, mon ami.
Les vacances s'en viennent, mais hein? Écoute, je veux t'entendre absolument sur Jagmeet Singh. Ça n'a pas l'allure.
Ben écoute, ça va être le sujet de mon texte qui va être publié plus tard aujourd'hui.
Okay.
Entre autres, je reviens là-dessus parce que, écoute, je trouve ça absolument sidérant qu'au cours des dernières heures, Jagmeet Singh ait reçu l'appui senti, militant du premier ministre de la Colombie-Britannique. Il dit dans un tweet équivoque qui s'indigne complètement qu'on demande, qu'on daigne même demander à Jagmeet Singh de s'excuser car il pointe les racistes. Moi, je rendu là, je me dis, OK, on est ailleurs. Là. Le premier ministre du Canada qui a ajouté son petit brin de woke, ça, on le savait. Là, on est rendu avec un autre premier ministre dans la province. Quiconque connaît un peu à l'intérieur, là, on est dans l'antithèse du racisme, OK? Puis là, ça commence à bien faire. Au cours des dernières heures, deux autres personnes qui sont dans la sphère des médias dans le Canada anglais ont renchéri. Je pointais hier vers une journaliste de CTV Toronto qui, tout à coup, décide de tweeter « Victoire pour Wikipédia » parce qu'il y a quelqu'un qui a changé la biographie d'Alain Thérien puis qui a marqué « Politicien canadien et un raciste ». Puis là, elle dit « Voilà, victoire pour Wikipédia ». elle s'est excusée, elle a retiré ça. Une autre dame qui, tout à coup, décide de partager un incident vraiment à caractère raciste qui se produisait, si l'information est bonne, à Toronto, et elle dit, écoutez, l'accent anglophone de cette personne-là, c'est sûrement un Québécois, puis ensuite déjecte son fiel, puis ça, c'est une ancienne journaliste, déjecte son fiel contre le Québec. Il y a beaucoup de personnes ensuite qui ont répondu, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Pourquoi vous attisez cette haine-là? C'est pas du tout un Québécois. On est rendu là-dedans. On c'est est dans fou. Quelque chose, Richard, qui dépasse l'entendement. Et si on continue dans cette voie-là, on va avoir un sérieux problème systémique. Et moi, je crois qu'il existait déjà. Mais là, il est temps qu'on... On nous dit toujours, c'est pas le temps de parler de ça. Faites place aux gens racisés. C'est de eux qu'il faut qu'on parle. Non. Là, il faut qu'on parle de ça maintenant parce qu'on dépasse les bornes. Là.
Parce que moi, la peur que j'ai, la crainte que j'ai, puis j'imagine que tu partages ma crainte, c'est que ça, tout ça, là, ces dérapages-là,
ouais.
ça alimente l'extrême droite. Tu regardes des fois aux États-Unis, là, certains propos là, de radicaux de la gauche, là, tu te dis, coudon, ils veulent-tu faire élire Donald Trump? Ils veulent-tu un deuxième mandat de Donald Trump? Parce que c'est ça que ça peut arriver, là.
Mais au moins ce qu'on voit aux États-Unis en ce moment, Richard, puis il faut quand même le dire, oui, c'est vrai qu'il y a l'expression d'un radicalisme de droite et d'extrême droite en appui à Donald Trump, mais en ce moment, moi, je vois un mouvement de républicains, et il est fort, et il pousse maintenant, il fait descendre Donald Trump à 38% dans le dernier sondage, et c'est un sondage à la méthodologie éprouvée, et on regarde aux États-Unis maintenant, puis là, tout à coup, il y a pas mal de gens dans le Parti républicain qui disent, savez-vous quoi, on laisse couler Donald Trump, on n'a pas le choix de le faire, et au final, là, peut-être qu'on va avoir un mandat de Joe Biden. Puis il y a bien des républicains qui peuvent vivre avec Joe Biden en passant. Puis là, ben on se dit, voilà, et on va refaire la marque de commerce du Parti républicain post-Donald Trump. Et il faut faire, tu sais, il y a des gens de grand talent et il y a des républicains aux États-Unis qui sont tout à fait conscients de ce que ça pourrait vouloir dire pour le pays. Mais là, on le voit, là, il descend de plus en plus. Puis au moins, on se dira que chez nos voisins du Sud, ben on est en train, là, carrément de construire l'après Donald Trump. J'espère que ça va se confirmer.
Mais en tout cas, ici, il y a un dérapage solide. Et oui. Moi, je ne comprends pas que Singh refuse de s'excuser.
Ben, pourquoi il le ferait? Parce que là, en ce moment, lui, il courtise une base quand même intéressante pour lui. C'est la même raison pour laquelle, ici, au Québec, il y a des gens, par exemple, dans les, ce qu'on appelle, là, la gauche peut-être un petit peu plus assumée, là, qui est très, très antiraciste. Ces gens-là ne trouvent pas à demander à Jagmeet Singh non plus de s'excuser. J'en ai vu plusieurs, moi-même, qui disent, ben, voilà, écoute, le Bloc, de toute façon, avait fait campagne sur le dos de la frontière et tout ça, puis mérite d'être traité de raciste. Et on les connaît, ces gens-là, alors que c'est totalement faux. Et rendu là, je veux dire, ce qu'il faut qu'on comprenne, là, on est dans une espèce de pas de combat, mais je dirais, on est au cœur d'un débat qui est très, très militant. Et les plus militants de la gang, d'un côté comme de l'autre, vont faire déraper ce débat-là, alors que c'est tout à fait, on va se le dire, là, il faut discuter de racisme. Puis moi, j'ai aimé l'angle qu'a choisi François Legault puis son gouvernement de dire, ben voilà, nous, on va aller vite, on va faire une courte commission à l'intérieur de nos rangs et on va vous arriver avec des propositions puis des solutions. Et il ne va pas adhérer, il va pas se laisser distraire par, si on veut, là, les plus militants de la gang qui diraient, ben non, crache le morceau, puis expie tes péchés, puis dis-le qu'il y a du racisme systémique. Puis lui, il va pas embarquer là-dedans. Mais on verra ce qu'il y a à propos.
Mais concernant le Bloc, là aussi, là, on focus sur le fait que le Bloc a refusé de reconnaître qu'il y avait du racisme systémique au sein de la GRC. Mais attends, c'est parce que le Bloc venait de donner son aval à la tenue d'une enquête du comité d'éthique pour savoir s'il y en a. Fait que là, après ça, le Bloc a dit, ben regarde, là, il va avoir une commission, puis après ça, on verra les recommandations, les conclusions de ce rapport-là, puis on va se prononcer. Mais on peut pas dire, d'un côté, il va avoir une enquête, puis après ça, se prononcer sur l'existence du racisme systémique. Ça tombe sous le sens, Christy?
Ben oui, t'as raison de le souligner. Puis le lendemain matin, donc le Bloc, encore une fois, donc donnait son aval à, ce, à, cette, à cette enquête-là. Il faut aller lire aussi. Il y a bien peu de gens, là. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont là puis qui déchirent leur chemise. J'ai demandé à plusieurs d'entre eux, as-tu lu la motion? Avez-vous lu la motion de Jack Meeting? Je veux dire, tu sais, c'est encore une fois une motion très longue. Puis il y avait là-dedans aussi des angles politiques. Moi, je suis surpris qu'il y ait des gens parti conservateur qui ont appuyé ça. Mais bon, ben, c'est du parlementarisme. Alain Thérien a parlé au nom du Bloc puis a dit, attention, pour telle et telle raison, on peut bien être en désaccord. Puis moi, je comprends tout à fait qu'on peut être en désaccord avec ça. Des motions comme ça, ils s'en votent dans tous les parlements provinciaux et fédéraux à tous les jours, ben, fédéral et provincial, ils s'en votent à tous les jours. Mais là, on dépasse, on franchit quelque chose. Et pire, le lendemain matin, Jack Meeting rentre là, puis il n'y a pas de problème. Mais si on avait traité de racisme, si on avait visé les Premières Nations, si on avait visé, par exemple, une autre collectivité que les Québécois, de façon aussi vicieuse que ce que l'a fait Jack Meeting, est-ce que ce politicien-là, chef de parti, aurait été réadmis le lendemain? Est-ce que c'est ça le standard maintenant de la Chambre des communes? Je veux dire, il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas.
Oui, tout à fait. Écoute, au provincial, François Legault, il est indélogeable.
Oui, c'est ça. Là, écoute, on regarde la carte. Là, il y a deux choses qu'il faut comprendre là-dedans. Premièrement, on regarde la carte géographique, puis là, c'est on ne peut plus clair. François Legault domine sur tout le territoire. François Legault domine même par chez nous, ce qui n'a jamais été fait. Là, il pourrait remporter trois des quatre circonscriptions en Outaouais. Il y en a déjà deux. Et là, ce qu'on remarque, là, c'est que la politique au Québec est en train de changer. Il va y avoir deux axes. Et moi, je crois que ça va durer jusqu'en 2022 parce que les plus militants de la gang vont faire en sorte qu'on va parler des dossiers identitaires jusqu'en 2022 et même au-delà. Et tant que la politique au Québec va être dopée par des questions hyper polarisantes sur l'axe de l'identité, ben on aura tout le Québec et on aura Montréal autour. Et dans ce Québec-là, ben il y a un petit peu de Parti québécois à l'est. Et pour le reste, ce qu'on voit, c'est que le Montréal est occupé par le Parti libéral et Québec solidaire. Et ceux-ci vont se disputer quelques sièges entre eux. C'est quand même assez incroyable parce que et certains m'ont dit Québec solidaire aurait même avantage peut-être à collaborer avec le Parti libéral et parce qu'ils s'entendent comme larron sur cette question-là. Ben, je veux dire, jusqu'aux dernières nouvelles, Québec solidaire est un parti indépendantiste, mais bon, pour ceux qui y croient encore.
mais c'est ça le problème, mais la situation de la CAQ, c'est qu'ils ratissent large. Hein. Ils ont comme... avant, le parti de l'économie, c'est le Parti libéral, là, c'est rendu la CAQ. Avant, le parti d'identité, c'est le Parti québécois, là, c'est rendu la CAQ. C'est-à-dire qu'il occupe tout l'espace.
Il occupe tout l'espace, puis je vais dire, dans un comté comme le mien, j'ai raconté à une antenne régionale ici l'histoire d'un monsieur que je connais bien, Michel, qui est un militant du Parti libéral ici. C'était un proche de Normand McMillan à l'époque, tout ça. Puis j'aime bien, parce que pour moi, c'est le baromètre d'un militant libéral dans notre coin en Outaouais, tu sais, fin cinquantaine, il a toujours voté libéral, il a milité beaucoup et tout ça. Puis je faisais une entrevue avec lui, puis il me disait, là, carrément, écoute, je reconnais plus ce parti-là. Il me parlait, lui, quand il s'était engagé en politique, de Robert Bourassa, puis il disait, voilà un homme d'État et tout ça, puis il regarde le Parti libéral maintenant, puis il se disait, moi, j'ai absolument aucun atome crochu, c'est un Québécois de souche. Il regarde ça, puis il dit, moi, je me reconnais plus dans ce parti-là. Et là, ben, le voilà rendu à la CAQ. Mais ce qui arrive, c'est que je peux te nommer aussi des tonnes de militants péquistes ici, de la première heure, et des gens dans des, tu sais, des maires de village qui disaient, moi, je suis fier, mon pôle a toujours été péquiste. Tu sais, c'était comme ça à l'époque, t'étais bleu ou rouge. Mais ces gens-là sont aussi rendus à la CAQ. Et on comprend là que François Legault occupe un terrain politique qui, il y a 5 ans, les gens disaient, ben non, voyons donc, ça fonctionnera pas. Mais là, ce terrain politique-là, ça pourrait probablement lui... Si on continue comme ça, ça va lui assurer 2, peut-être même 3 mandats. Lui, il dit qu'il en fera 2 puis qu'il va démissionner. Mais je veux dire, tu sais, c'est quand même assez hallucinant. Et Philippe Fournier, de QC125, dans l'actualité, il fait bien de rappeler que des taux d'approbation comme ça, puis une espèce de d'hégémonie politique d'un parti politique...
Est-ce
là,
que c'est inquiétant?
Ça fait très longtemps que ça s'est vu au Québec.
Mais est-ce que ça t'inquiète, ça?
Moi, ça m'inquiète d'une certaine façon, oui, parce que pendant qu'on parle d'identité, puis pendant qu'on est polarisé sur ces questions-là, est-ce qu'on oublie déjà comment que ça s'est passé, le projet de loi, ben la loi 40 sur les commissions scolaires? Est-ce qu'on oublie le PEC, le PEQ de Simon Jolin Barrette? Je veux dire, il y avait là un cafouillage. On dira, oui, mais il venait d'arriver au pouvoir, il n'avait jamais gouverné. Mais quand on regarde la défaite, je veux dire, humiliante, là, sur le projet de loi 61, tu sais, je veux dire, la CAQ, là, en même temps, je veux dire, c'est pas tout rose. Puis, il y a des questions à se poser. Puis là, après, après la pandémie, il va y avoir l'austérité, il va falloir qu'on repaye tout ça. Comment que ça va s'engager? Mais tant que les questions identitaires vont être polarisantes puis vont être à l'avant-plan, ben tout ce que la CAQ va faire en dehors, ça va être difficile de faire coller ça. Mais on a besoin d'une opposition. On a besoin quand même d'avoir une alternative si jamais ce parti-là dérive. Et en ce moment, le Parti libéral puis Québec solidaire se sont exclus d'emblée par leur position identitaire. Et si on verra au Parti québécois ce qui peut se passer, ça pourrait renaître. Le Bloc l'a montré, il peut renaître. Mais je veux dire, quand même, on s'entendra pour dire qu'en ce moment-là, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour la course quand même.
Non, pas tellement. Toi, t'es-tu excité par la course au PQ?
Je regarde ça. Je trouve intéressantes les interventions que certains candidats font. J'aime beaucoup l'angle que prend Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu sais, je veux dire, la façon dont il s'exprime et tout ça. On verra ce qui va se passer. Il faut jamais, jamais compter le Parti québécois comme battu parce que ça fait longtemps qu'on le dit, ben il va s'éteindre. Là, on va s'entendre que il y a pas un genou là, il y a quasiment deux genoux au plancher là, et si pas plus. Mais on verra ce qui va se passer. Mais il suffirait quand même que le vernis de si on veut, le nationaliste de la CAQ s'effrite et la première valeur sûre après la CAQ, je veux dire, ça sera quand même le Parti québécois. Fait qu'il faut pas le compter pour battu, mais en même temps, il faudra qu'il se passe un électrochoc très, très important et on verra. Parce que là, il reste quelques jours, il reste pas beaucoup de temps, là, faut que je fasse attention, mais il reste pas beaucoup de temps pour que les autres candidats, fournissent leur caution financière et les signatures et tout ça. Je vois qu'en fin de semaine, par exemple, il y a un gros blitz de signatures prévues à Québec et tout ça. Puis là, on s'active. Il va y avoir une course, mais j'espère que cette course-là va se faire à plus que deux. J'espère qu'il va y avoir plus de candidats.
Non, j'espère que Frédéric Bastien va avoir ses signatures, parce que ce gars-là, c'est important ce qu'il dit. Puis moi, je veux qu'il soit présent lors des débats. C'est un plus pour le Parti québécois.
Il va les avoir, Richard. En tout cas, on me dit là, que Frédéric Bastien, là, ça devrait pas être un problème. Et effectivement, il y a quand même pas mal d'appui. Je sais pas... Oui, c'est vrai, il faudra qu'il soit là, mais il faudra aussi qu'il diversifie son discours. Là. Si on a fait la course que à partir des questions identitaires et toujours en tapant sur le même clou, ben écoute,
en anglais, on appelle ça un one trick pony. Tu connais ça, tu connais l'expression? Un one trick pony, j'adore ça. Oui. Écoute, la bonne nouvelle pour nos auditeurs, c'est que tu prends pas de vacances, tu vas être là. C'est Des, notre ami Vincent Dessureau, qui va animer un show de 1 h à 3 h et tu vas être présent tous les jours, Steve.
Je vais être là, puis je veux dire une chose et je veux dire, je le dis là vraiment, c'est une belle collaboration qu'on a. Prends des bonnes vacances, puis c'est un. Je veux dire merci à toute l'équipe, Maud, Hugo, tout ça, tous les gens autour. C'est un plaisir de faire de la radio avec toi, Richard.
Mais merci.
J'espère qu'on va se revoir.
Moi, j'ai appris à te connaître, puis j'adore, j'attends tout le temps nos discussions, tout ça. T'es un gars passionné, avec une fougue et tout ça, et un courage, je dois le dire, un courage, parce que tu attaques souvent ta propre famille idéologique. Donc, merci, puis profite de ton été, Steve.
OK, salut bien.
Salut, bye.
L'art est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
Hey, il y a plusieurs années de ça, j'étais rédacteur en chef de l'hebdomadaire Voir et on avait consacré un dossier, c'était mon idée, à un nouveau mouvement très marginal qui était né sur les campus américains qu'on appelait la rectitude politique. Et à l'époque, on connaissait pas ça. À Voir, on était le premier journal à vraiment faire un dossier complet là-dessus. On avait interviewé Camille Paglia, qui est professeur à l'Université de Philadelphie, qui avait écrit plusieurs textes condamnant ce nouveau mouvement-là. Et j'avais interviewé Arthur Schlesinger Jr., qui était un ancien conseiller de John F. Kennedy, qui avait écrit un livre qui s'intitulait Les États désunis d'Amérique, où il disait, ben là, c'est bizarre parce qu'avant, on mettait beaucoup l'accent sur ce qui nous ressemblait, et maintenant, avec ce nouveau mouvement-là, on met beaucoup l'accent sur ce qui nous divise. C'est-à-dire, on met l'accent sur la race, on met l'accent sur la religion. Là, je vous parle d'il y a à peu près 20 ans. Il y a 20 ans ou il y a 15 ans de ça, ça fait très longtemps. Et là, c'était très marginal, ce mouvement-là. Maintenant, ce mouvement-là, que je pensais, moi, qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter, Il y a du vent dans les voiles et c'est rendu mondial. C'est rendu en France, c'est rendu ici, c'est très présent ici, au Québec, au Canada, aux États-Unis, où il y a des conférenciers qui sont censés prononcer des discours, des conférences dans les universités et qui voient leurs conférences annulées parce qu'il y a eu des plaintes d'associations étudiantes qui n'étaient pas d'accord avec les propos tenus par telle ou telle personne. Il y a des artistes qui sont censurés, il y a des œuvres qui sont retirées de l'affiche, des livres qui sont retirés, des tablettes, des films qui sont retirés de la télévision. Il n'y a pas une journée. Il n'y a pas maintenant une journée, c'était un tout petit mouvement. Moi, je suis ça depuis tout le début, et c'était un tout petit mouvement d'une petite gang de crinqués aux États-Unis, et même là, on parle là, sur les campus californiens, lorsqu'on avait publié notre dossier. C'est rendu maintenant, c'est une tempête, c'est un vent, et je vous demande, parce que moi, je vois l'émission ici, Politiquement Incorrect, et même Cube Radio au grand complet, comme un oasis de résistance, comme un lieu de résistance face à ce discours-là qui veut nous aseptiser, qui veut nous dire qu'est-ce qui est possible de dire, qu'est-ce qui est pas possible de dire, qu'il y a des gens qui ont peur à leur job, il y a un climat de terreur qui existe maintenant dans le milieu des commentateurs, dans le milieu des artistes. Tout le monde a peur de parler. Tout le monde se tient tranquille dans son coin de peur de perdre sa job. Et là, je vous demande là, aux gens de bonne volonté qui nous écoutent. Si vous nous écoutez, si vous êtes des fidèles de Politiquement Incorrect et si vous êtes des fidèles de Cube Radio, c'est que vous aimez la liberté d'expression. Ça vous tient à cœur. Il ne faut plus rester silencieux. Dénoncer ce mouvement-là, parce que c'est un mouvement, je vous le dis, là, qui est extrêmement inquiétant. Extrêmement inquiétant. Tout le monde est sénère. Je vous le dis. Tous les médias sont sénères. Les entreprises culturelles sont sénères. Ils ont tellement peur d'un boycott. Et tout ça. Quand tu dis là, que Robert Lepage lui-même a dû s'excuser, mettre un genou à terre, dire qu'il était raciste, retirer une de ses pièces, qu'on demande que des textes maintenant, des créations soient approuvées par tel ou tel groupe pour voir si y a des choses qui vont les indigner dans une œuvre d'art, c'est rendu extrêmement inquiétant. Donc, on a le devoir, chacun et vous comme moi, de dénoncer ces mouvements-là pour qu'on puisse retrouver une certaine liberté d'expression. Donc, sur vos médias sociaux, là, si vous pouvez dénoncer ce genre de choses débiles qui arrivent, mais régulièrement, la présomption d'innocence qui est en train de foutre le camp. Il y a des comédiens qui ont perdu leur job alors qu'il n'y a aucune accusation qui a été portée contre eux. Ça devient extrêmement inquiétant. Donc, c'est ce que je vous demande. Tiens, votre devoir de l'été, c'est d'essayer d'être vigilant. Il faut vraiment lutter contre ce mouvement-là qui est en train de nous étouffer. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement Incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
Alors, l'émission s'appelle Politiquement Incorrect. Puis s'il y a un gars qui est politiquement incorrect, c'est mon chum Master Bugarici, dont je m'ennuie énormément. Et il y a des gens, là, tu sais, il y a des gens qui sont furieux contre le confinement. Vraiment, là, qui trouvent que ça a été mal géré, puis tout ça. Puis il faut les entendre aussi, ces gens-là. Puis je pense que Master en fait partie. Salut, Master Bugarici!
Salut, comment ça va son père?
Hey, tu me manques en maudit, Master. Écoute, comment tu penses que ça a été géré, tout ça? Là? C'est quoi ton feeling? Je veux avoir ta réaction.
Ben, tu vois, ma réaction, tu sais, en fait, puis là, j'essaie de sortir de la phase fâchée. Ben, en fait, la phase que j'étais encore lisse, parce que j'étais plus fâché, j'étais rendu encore lisse, pour être honnête avec toi, c'est plus le côté, puis tu sais... Je me suis rabattu, puis j'ai fait mon mea culpa, mais je me suis rabattu sur les médias sociaux comme pas mal de monde a fait, en fait, c'est que on se ramassait tout seul chez nous, puis moi, tu sais, j'ai une garde partagée, fait que je me ramasse une semaine sur deux que je suis vraiment tout seul, puis ça m'a permis de commencer à vraiment détester les médias sociaux, puis détester... Fait que, tu sais, ta question, je fais une parenthèse avec les médias sociaux, parce que c'est comme si le fait d'être confiné m'a rendu un peu plus niaiseux et un peu plus épais. C'est-à-dire que là, j'allais sur les médias sociaux, puis là, je me mettais en calvaire contre tout le monde. Là, je vois tout le monde se diviser, tout le monde se fâcher. Puis là, de temps en temps, on écoute Arruda, puis là, il nous compte une affaire à quelque chose. Le lendemain, il dit le contraire. On est tous en train de virer fou. Fait que là, j'ai essayé de couper un peu ça. Je suis comme tout le monde, j'ai un peu la maladie du téléphone. Je la vis comment? Je la vis frustrée, parce qu'évidemment, moi, ce que j'ai essayé de faire aussi, Richard, puis tu sais, on est à l'époque où les seuls gens qui ont raison, c'est les seuls qui ont été à l'école. Tu sais, on est rendu dans ce débat-là. C'est rendu tellement loin que le point de vue de n'importe qui compte plus si t'as pas 8 diplômes universitaires. Ce qui pour moi me tomberait royalement sénant, parce que moi, je vais être bien franc avec toi, Richard, puis je vais être très sincère avec tout le monde qui t'écoute en ce moment, là. Je connais plus d'abrutis instruits avec des diplômes que je connais des gens qui travaillent de leurs mains, qui sont sensés, logiques et ultra brillants. Oui. Pour répondre vraiment à ta question, comment est-ce qu'on peut confiner des gens dans une période de pandémie comme ça, là, quitte la guerre des masques, la guerre, on en met dessus, on n'en met pas. Richard, Resti, on est enfermé chez nous, puis il y avait juste des McDo d'ouvert. Moi, là, j'ai été lire, j'ai essayé d'aller lire, puis Richard, je t'ai envoyé un messenger tantôt, puis je l'ai posté sur ma page. Ce matin, j'ai vu la meilleure vidéo de tout mon confinement. Je l'ai vu. Puis, sais-tu quoi? C'est un éleveur de moutons qui a fait une vidéo.
OK.
Il explique comment ça marche, élever des moutons. Richard, t'as pas idée comment c'est exactement ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de se passer. Là, je dis pas, puis je pars pas dans le complotisme, Richard, là, de dire, je suis vrai qu'un virus, c'est pas vrai, il y en a un virus. Moi, je suis sur la terre, ça fait 46 ans, là, puis il y en a à longueur d'année des virus, depuis que je suis sur la terre. On s'entend-tu là-dessus, Richard? Il y en a. Là, non, mais attends une minute, là, les chiffres, là, on se lit, là, une journée, on lit, il y a une plaque, quelqu'un qui pose quelque chose. Ah, oh, c'est ça, les chiffres, là, lendemain, t'as ça, les chiffres. Richard, je comprends plus rien.
Ah, moi, je comprends. En tout cas, là, on est dans une période de très grande confusion parce que, écoute, même les autorités disent une chose et son contraire. Les scientifiques s'obstinent entre eux autres. On dit telle affaire, après ça, non. Écoute, là, je voyais, là, on a imposé des règles de distanciation sociale dans les garderies à des enfants de 4 ans.
Sérieux, Richard? C'est ça l'affaire des moutons? Non, c'est qu'on nous prend pour des imbéciles. C'est ça que je suis tanné. Puis moi, j'appelle pas à la révolution, j'appelle pas à ça. J'appelle au raisonnement et au bon sens des gens. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas t'enfermer dans une maison à te commander du lunch. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, mais on va tous se rendre malades. Moi, Richard, tu sais quoi? Je te le dis, j'en ai fait une dépression. Je suis en train de virer fou chez nous. Je vais peut-être perdre ma maison. Là, je lis, là, le monde sont frustrés. Là, ceux qui ont gardé leur job, qui ont des micros, là, pas toi, Richard, je n'ai pas vu faire ça, mais qui chantent la PCU, là, qui chantent des gens. Là, Chris, la gang, pensez-vous qu'on s'ajoute tous des 60 pouces avec la PCU?
Mais non.
Qu'est-ce que tu penses que je fais ça, moi, 2000 piastres par mois? Ça fait 30 000 piastres que je perds, Richard, de mes poches. 30 000 piastres. Moi, j'ai pas ça dans mon compte de banque, 500 000 piastres. J'étais un entrepreneur toute ma vie. J'ai pris des risques toute ma vie, mais j'ai vécu heureux toute ma vie. Je suis pas un gars frustré. J'ai toujours fait le travail que j'ai voulu faire. Mais ça joue contre moi aujourd'hui. Oui, c'est vrai, ça joue contre moi. Puis OK, Trudeau, il garoche l'argent partout. Mais Chris, les gens comme moi sont
chouins. Mais tu imagines les propriétaires de bars, les propriétaires de restos, là, qui ont, comme toi, là, qui ont investi de l'argent là, dans. Toi, t'avais ta business, t'avais une business que t'as fermée, qui ont investi de l'argent là-dedans. Puis ça, c'est beaucoup d'années. Puis là, il faut que tu mettes la clé dans la porte. Écoute, c'est certain que tu fais une dépression. C'est sûr.
C'est sûr. Tu sais quoi? Moi, la conclusion de ça, pour vrai, en confinant des gens, tu les déshumanises. C'est ça que tu fais. Tu déshumanises les gens. Hey, voyons donc, toi, si je vois quelqu'un, moi, à ce temps, je suis content de faire un câlin. Qu'est-ce que c'est ça? On vit sur la terre, Richard. On est des humains. On est des bébés. Les gens, ils savent-tu qu'on arrêterait 8000 microbes dans la gueule? C'est ça qu'on est. Oui, Richard, les gens, ils meurent. Les gens meurent à chaque année avec des virus comme ça. Est-ce que tu sais que la pandémie du sida, ça fait 50, 60 ans qu'elle dure? Sais-tu qu'elle n'est pas finie encore? Puis sais-tu qu'il y a des jeunes qui sortent d'un bar puis qui font l'amour avec des gens qui ne connaissent pas, même pas de condom parce qu'ils pensent que le sida n'existe plus? C'est bien pire que la maudite COVID, ça. Voyons donc. Mais là, on est rendu qu'on se déchire. Là, on est rendu sur le racisme.
On aurait dû confiner les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, malades, les gens qui, mettons, obèses, etc. Puis tout ça. Mais tu sais, puis laisser les autres vivre leur vie.
Peut-être. Richard, tu sais bien ça. Non, mais c'est comme si ça avait pris 2020 années pour réaliser que dans la vie, il fallait se laver les mains de temps en temps. Ça, là, je blâme. Non, mais je blâme les hommes. Comme les hommes, il n'y a rien de plus crotté qu'un homme. Je sais, j'ai deux gars et une fille. Moi, ma fille, elle se lave, mes gars ne se lavent pas. Ça, c'est la vérité. Mais tu sais quoi? Moi, ma mère a le cancer, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'elle est censée être décédée selon la médecine. Puis elle ne l'est pas. Penses-tu que je vais chez ma mère quand j'ai la grippe, mes enfants, ils meurent? Ben non! Mais les gens, ils viennent de réaliser ça. Puis Richard, check bien ça. Le gros, la grosse conscientisation que j'aimerais qu'on fasse socialement, là, puis là, en ce moment, tout le monde parle des CHSLD, puis là, il faut garocher des milliards. Hey, la gang! On est le seul peuple sur la planète qui garoche nos vieux dans des maisons de même, gang d'innocents.
Ben oui.
Moi, j'aimerais ça, moi, qu'il y ait un plan à la place de garocher des milliards là-dedans pour m'aider, moi, m'aider à subvenir aux besoins de mes parents. Ma mère qui est malade, j'en ferai un, le petit bungalow. Moi, j'ai dit à ma mère, ça donnerait le rez-de-chaussée chez nous. Mon vivre dans le cave chez nous. J'ai doué 20 ans, moi, ma mère. Mais non, c'est pas ça. Les gens, ils vont se battre à savoir qu'il faut pas donner trop de milliards, mais on va crisser ça dans les CHSLD pour encabaner nos vieux.
Parce que toi, je te connais, t'as trois enfants, t'es un super bon papa. Toi, la famille, c'est très important. Tu parles souvent de tes parents avec beaucoup d'émotion. Ouais. C'est vrai qu'on pèle ça dans la cour du gouvernement. Le gouvernement va prendre soin de nos parents, mais tu sais, c'est à nous autres aussi, Christian, aller les voir et en prendre soin d'eux aussi, là.
Tu quoi, l'Amérique latine, je l'ai faite, moi, l'Amérique latine. J'ai fait l'Afrique. Non, j'ai fait l'Afrique du Nord. J'étais allé en Côte d'Ivoire, j'étais allé au Burkina Faso. Mande à un Africain, puis m'ont dit ce qu'on fait avec nos vieux. Hein, puis après ça, on peut traiter le reste du monde à tarder, nous autres, parce qu'on se pense bien évolué. On est des Mongols, on est des abrutis. Puis on est imbécile de penser comme ça pour prendre soin. Moi, tu sais quoi, Richard? Moi, je veux que ma mère, elle monte à tricoter à ma fille, calvaire. C'est sûr, je veux. Je veux pas qu'elle monte dans un foyer, que ça sent le formal, ben non! Chez nous, avec des fleurs que j'ai ramassées dans le cou que ma mère a plantées. C'est ça, la richesse familiale. Mais là, en place, on va se déchirer en ce moment, là, à savoir qu'il faudrait se révolter contre la police, ça n'en prend plus, là. Voyons, esti. Les gens sont rendus fous. Hey, non, mais c'est bordel, Richard, les gens, ils se déchirent. Internet, là, ils m'écœurent, tu peux pas savoir. La politique, je suis plus capable. Tout le monde est écœuré.
Non, mais écoute, les médias sociaux, là, c'est très difficile de résister à ça. Moi, à un moment donné, pendant la pandémie, puis j'avais des hauts puis des bas, mais je suis chanceux, là, parce que moi, j'ai gardé ma job. Mais tu sais, des fois, j'étais sur les médias sociaux, puis là, je m'obstinais avec du monde que je connais même pas, puis des fois, je les envoyais promener, puis ils m'envoyaient chier, puis là, à un moment donné, tu dis, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? C'est quoi ça? On dirait que ça nous rend comme des bêtes.
Tu vois, Richard, moi, je suis fragile de l'estomac. Moi, je vais te faire une confidence. Je suis fragile de l'estomac. Puis quand je suis en crise, j'ai mal à l'estomac. Fait que moi, puis j'étais en train d'enseigner. Moi, j'ai deux gars qui sont des gamers. Puis quand mon petit gars, il descend de sa game en bas, puis qu'il est en face rouge, puis qu'il est fâché parce qu'il a perdu, je dis, t'as donné quoi de jouer à ça? Si ça te fâche. Fait que moi, les médias sociaux, quand je les lâche, puis j'ai une petite boule dans le tien, mais là, c'est moi l'imbécile. C'est pas le crétin qui me traitait de cave sur Internet parce que lui, il pense que Bill Clinton, il mange des enfants, là. Lui, il a le droit. Non, mais il a le droit. Il a le droit, Richard. Puis moi, je suis capable d'aller jusque-là. J'ai même pas le goût d'être traité de cave parce que tu sais-tu quoi, Richard? Je le sais pas plus que lui s'il en mange, Bill Clinton, des enfants. C'est pas parce que t'as 8 années d'université, que t'as 4 micros à radio, pas à télévision, que tu le sais plus qu'un autre. C'est ça l'affaire, on sait rien.
Mais en même temps, il y en a qui. Tout le monde était expert en épidémiologie. Là. Tout le monde est expert en virus là, depuis que là, j'ai lu telle étude, puis là, n'importe quoi.
Moi, je dis tout le temps, tu l'as-tu lu sur YouTube ou tu l'as lu d'un livre? Parce que si tu l'as lu sur YouTube, je ne sais pas si tu connais Photoshop, mais il y a des gens qui réalisent même pas que Photoshop existe. On peut plus croire à rien, on peut plus croire à personne. J'aurais bien voulu croire à Gouda, puis je veux pas être sous son dos. Mais t'as-tu vu les vidéos qui circulent? On est capable d'avoir une vidéo contradictoire de chaque affaire qu'il déclare. Calvaire, c'est lui qui est en avant du troupeau, puis qui nous dit qu'elle va virer.
Ben, attends une minute, pendant le début de la pandémie, il était au Maroc en vacances.
Oui, puis ils font les meetings, toute la gang, ils ont pas de masque, ils ont pour mettre des masques, ils sont en train de nous rendre dingues, puis c'est clair que, puis je veux pas faire le débile non plus, mais c'est clair qu'il y a une petite agenda en arrière de tout ça, ils sont en train de se refaire les poches pendant que tous eux autres ont leur job, ils font tout leur argent, nous autres on crève de faim comme des innocents. Hey Richard.
Toi, tu vois, à septembre, là, tu perds une deuxième vague, ou tu penses...
Richard, ça prend une première vague pour avoir une deuxième, t'as-tu déjà été à la plage? Le ressac, là, c'est quand la première vague a cessé. Ça m'en prend une vague. Moi, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu ça. Moi, si je regarde tous les chiffres partout, OK, mais je suis capable d'avoir tous les chiffres contraires aussi partout.
Ça veut dire le gros problème au Québec, c'était dans les CHSLD. Enlève ça. Puis c'était pas si grave que ça, c'est ça que tu dis?
Hey, Richard, c'est rendu que les gens, ils chicanent à savoir c'est quelle ville qui en a le plus. Dans les fils, il y a un hôpital, tabarnak. Les gens alentour, ils viennent tous chez nous se faire tester. C'est bien innocent. Les gens, ils pensent qu'il y en a plus. Charles, ça se peut pas comme les gens deviennent. C'est ce que je te dis au début. c'est qu'on est tellement rendu médias sociaux, ça nous rend pas intelligents, ça rend les gens imbéciles. Mmh. Ça écrapoutit le cerveau. Les gens, ils réfléchissent plus. Richard, je t'ai envoyé une vidéo sur les moutons. Je veux que tu l'écoutes, puis je veux que tu le partages sur ta page.
OK, je regardais ça aujourd'hui.
Tu vas pogner de quoi? On est tous des moutons en ce moment, puis la seule façon de contrôler des moutons, c'est en lui disant qu'il y a un loup qui s'en vient au loin, puis ils vont tous rentrer dans la bergerie, puis rester là. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait le berger? Il peut les tondre, les vacciner, les abattre comme il veut. C'est drastique qu'ils font.
Je vais regarder ça. Écoute, ça te tente-tu de collaborer régulièrement en septembre au show?
Hey, j'aimerais bien trop ça, puis tu sais que j'aimerais bien trop ça.
Ce serait le fun, tu pourrais venir chialer.
Moi, j'aimerais ça. Tu sais quoi? Même pas chialer, moi, j'appelle ça chanter. Parce que moi, j'ai un Italien qui dort en moi. Puis un Italien, dans la vie, ça chiale pas. Quand le verre, ça chante. C'est ça que je fais. Chante. Elle chante. C'est ça que je fais.
Écoute, on se reverra. On va se parler régulièrement en septembre. Écoute, Master, je pense à toi. Lâche pas. Tu as eu des moments difficiles. Accroche-toi. On va tous s'en sortir. Puis on se reparlera en septembre.
La prochaine fois qu'on se voit, c'est toi qui payes le chardonnay.
OK. Salut, John.
Salut, Rude.
Richard Martineau.
Politiquement incorrect.
Cube Radio.
Alors, nous parlons avec François Lambert. Salut, François.
Salut, Richard.
T'es-tu chicané avec quelqu'un, toi, cette semaine? T'es tout le temps en train de te chicaner avec quelqu'un sur Facebook, non?
Richard, c'est pas moi qui chicane, c'est les gens qui me chicanent. Moi, je veux juste répondre aux chicanes. C'est vrai, en plus. C'est assez rare que je vais la partir, la chicane, tu sais, mais je me laisse certainement pas plier ses pieds, ça, c'est sûr.
Écoute, faut parler de ce projet-là, là, d'identité numérique, là. Éric Kerr, le ministre de la Transition numérique, qui a annoncé ça, un projet de plusieurs milliards de dollars. Ça va nous simplifier la vie, mon gars, là. La vie va être tellement plus simple. Là, tu vas avoir accès à toutes sortes de dossiers, puis tu vas pouvoir payer tes contraventions, puis tout ça. Puis ça va être le système le plus évolué au monde.
Ouais.
Hey, hein?
Ben, tu sais, on peut pas être contre la vertu. Il faut qu'on aille là. Le problème, c'est qu'on n'y arrivera pas. Puis je veux pas être négatif. Je veux pas. À un moment donné, il faut se baser sur l'historique des projets informatiques. Parce que, tu sais, on a parlé souvent des scandales, des projets de construction, mais les projets informatiques, il y a des méchants scandales là-dedans. Tout le monde le sait. Et on ne va pas y toucher encore. Tu sais, c'est tellement gros. C'est que c'est difficile. C'est difficile de voir un projet informatique et d'aller fouiller à quelle place il y a eu un abus. Tu sais, rentrer un camion au stade olympique plein, le sortir plein, c'est assez facile à voir. Là, tu sais. Mais le problème, c'est que, regarde, on regarde au fédéral, le système de PayPhoenix. 10 ans plus tard, c'est encore le bordel, des milliards. Le registre des armes à feu, une foutue base de données, ça a coûté combien de milliards?
C'est fou. Puis le système Santé Québec, le système Dossier Québec, là.
Effectivement. Donc, on pense qu'on va être capable. On met 42 millions pour une étude puis commencer le projet. Je ne sais pas, Richard, il faut aller là. Mais comment que ça va coûter, cette affaire-là?
Ah, mais c'est sûr, ça va coûter 4-5 fois le prix. C'est certain, c'est tout le temps comme ça, les projets numériques, tout le temps. Mais comme tu dis, là, si on faisait là, une commission Charbonneau, mais sur les contrats informatiques, là, m'a dire là, ce qui se passe dans la construction, c'est de la petite bière. Je suis convaincu.
Oui, c'est évident. Là. Donc, ça n'a pas de sens. Genre, moi, je suis un gars d'informatique. J'ai des compagnies d'informatique. J'ai été programmeur. Donne-moi 1 milliard, là, puis d'après moi, je fais du code pour une couple de pays, là, tu sais. Je sais pas comment qu'on peut dépenser autant d'argent. 1 milliard, là, Richard, ça reste énormément d'argent. Et même 42 millions pour l'étude d'un projet, je sais pas comment ça se fait.
Mais on est-tu, tu sais, c'est le moment, le timing. Là, on est en train de s'endetter, là. Pour des décennies, là, au Québec, au Canada, là, on est en train là, de se foutre dans le trou. On est dans le trouble économiquement. Il y a des gens qui ont perdu leur job, qui ont perdu leur business, qui ne retrouveront pas. C'est-tu le temps de dépenser des milliards de dollars sur une identité numérique? Je veux bien, là. Tu sais, mais on a-tu les moyens de se payer ça?
On n'a pas les moyens. On s'entend qu'on est dans la sauce, là. C'est pas quelque chose qui nous empêche de vivre en ce moment, c'est pas traîner nos cartes d'identité, c'est pas la fin du monde, hein. Tout le monde en traîne une. Est-ce que ça devrait tout être informatisé, ça? Ouais, ben oui. Mais je me souviens, quand j'étais à l'université en 87, il y avait une compagnie qui s'appelait Hippocrate, qui devait informatiser les systèmes les systèmes médicaux. Okay. En 87, on travaillait déjà là-dessus. On est en 2020 et on n'est pas encore, on n'a pas encore abouti. La compagnie a eu le temps de fermer. Elle s'est faite renommer sur un autre nom, là. Mais c'était une des compagnies que j'avais étudiées quand j'étais à l'université. Je me disais, oh my God, c'est sûr que ça s'en vient, ça, pour l'an 2000. Tu sais, en l'an 2000, on avait tout volé avec nos propres autos. Il n'y avait plus d'auto, d'ailleurs. On volait, point. Il n'y avait plus d'autoroute. Mais, Richard, moi, j'y crois pas. J'ai peur. J'ai peur parce que.
Moi, j'ai peur. Moi, de toute façon, je l'ai déjà dit, là. Une des phrases qui me fait le plus peur au monde, c'est quand le gouvernement a dit on va te simplifier la vie.
Bien, définitivement. Tu sais, c'est un projet tellement. Du temps. Tu sais, c'est nos pyramides d'Égypte d'aujourd'hui. Hein. Tu commences la pyramide, puis tu as fini trois générations. Donc, comme moi, si je voulais que mes petits-fils aient une pyramide, bien, je la construirais en ce moment. Je meurs. Mes enfants continuent. Puis après ça, c'est l'autre qui l'a.
Mais l'affaire, c'est qu'en informatique, ça bouge tellement vite qu'après un an, ton projet, qui n'est pas encore abouti, il est déjà obsolète.
Bien, c'est pour ça qu'il faut commencer petit. Puis, tu sais, la façon qu'on programme en informatique pour s'assurer qu'on reste toujours à la fine pointe de la technologie, c'est que tu fais un petit projet, tu commences tranquillement. Et c'est comme une roue qui tourne. Et t'en fais un petit peu, tu le perfectionnes. Eux autres veulent arriver, puis un gros lancement, bang, on fait ça d'un coup. Mon expérience, là, puis j'en ai en informatique, là, j'ai passé ma carrière là-dedans, me dit que ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'on va faire. Ça ne marchera pas. Si on n'est pas capable de faire une base de données au Canada pour un registre des armes à feu, on n'est pas capable de faire un projet qui va simplifier notre vie. Les bonnes volontés d'Éric Kerr.
Le régime des armes à feu, là, je m'excuse, je ne suis pas un expert en informatique, mais c'est le nom de quelqu'un, puis à côté, le nombre d'armes qu'il y a.
Il y a des gens qui vont dire non, mais il faut le relier à d'autres choses. 90%, là, c'est ton nom avec combien d'armes à feu.
On n'est même pas capable de faire ça. On n'est même pas capable de payer les fonctionnaires de façon régulière. Ton nom, combien on te doit, combien tu gagnes par semaine. Puis on n'est même pas foutu de faire ça. Puis là, on va avoir un projet informatique, puis on va être les meilleurs au monde.
Voyons. Moi, je commencerai par. Ben oui. Puis on va présenter notre téléphone. Il y a tellement trop de sécurité potentielle que on ne devrait pas aller là. Mais bon. On est prêt à dépenser parce qu'il faut faire rouler l'économie. C'est un peu leur réponse de dire, ben oui, on va mettre de l'argent aussi en informatique, pas juste dans la construction. C'est pas un moment de crise qu'on pense à des projets comme ça, mais Éric Kerr, bon, sa job, c'est ça. Donc, c'est certain que lui-ci, il est au bout de la table, puis il tape du pied, puis il a
moins quelque chose. Regarde des jardins, là. C'est gros, des jardins, puis se sont faits, là, ils volent d'identité complètement délirant, là. C'est un scandale, ben, ce qui est passé chez les jardins. Oui,
ça fait un an. Et encore là, c'est quelque chose qui est facile à voler l'informatique. Moi, je me suis fait voler deux fois du code par des employés. On avait beau regarder de toutes les façons comment on pouvait protéger ça. Mais tu sais comment ça marche, Richard? Toi et moi, on travaille ensemble. Et moi, j'ai accès à quelque chose, toi, tu as accès à quelque chose. Tu n'es pas supposé de me le donner. Mais là, le président de Desjardins, supposons dans ce cas-ci, Guy Cormier, hey, j'ai besoin d'un rapport pour une présentation au ministre. Pourrais-tu me donner accès à un rapport sur les 30-40 ans, supposons? Je te dis, ouais, mais j'ai pas accès à ça. Mais enfin, d'abord, le président va avoir un rapport. Richard, donne-moi donc ton accès à toi. Bingo. C'est toujours comme ça. T'sais? C'est toujours comme ça qu'on finit par avoir des brèches dans les systèmes. Mais ça fait un an, c'est un scandale. Puis le problème, c'est qu'ils veulent pas amener ça en cours, hein? Parce que s'ils amènent ça en cours, ils sont obligés de dévoiler leurs failles. Donc c'est pour ça que le gars il est encore en liberté là, avec ses cartes.
Il faut se rappeler ça parce que moi je trouve que c'est tellement drôle. Effectivement, ce que tu dis, là, le gars qui était à l'origine de toutes ces fuites de données-là chez Desjardins, là, ce gars-là avait fait ça pour être payé en certificat cadeau des rôtisseries Saint-Hubert.
Allez, c'est pas le winner de la place. Il accepte de se faire poser comme s'il est content là, dans le Journal de Montréal.
Il y a quelques milliers de dollars en cartes cadeaux en supermarché de restaurant Saint-Hubert. Le gars, là, ce qu'il a fourni là, aux bandits, à la mafia, je ne sais pas trop à qui, là, les renseignements qu'il a fournis, c'est inestimable. C'est des renseignements qui valent cher. Puis le gars, il a vendu tout ça. Il a mis sa job sur le bio, sa réputation et tout ça pour des certificats cadeaux de Saint-Hubert. Faut-tu être un imbécile complet?
Notoire, mais tu vois, regarde, un gars avec ce quotient intellectuel-là réussit à vider 3,8 millions, je pense, d'après tous les membres de Desjardins. Ça fait un an aujourd'hui, je pensais que c'était aujourd'hui, l'anniversaire de ça, mais il se passe rien. Donc, tu vois comment c'est complexe les systèmes informatiques. Donc, quand on voit qu'on va aller dans la numérisation...
Mais y a-t-il quelqu'un qui va perdre sa job chez Desjardins? C'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a jamais quelqu'un qui perd sa job. Jamais.
Ben, ça, Richard, c'est simple, parce que ça, c'est l'équivalent d'un email à tous. Envoie un email, là, puis mets tout c'est appel à tous, j'ai besoin de ça, il n'y a personne qui va répondre. Faut que tu envoies un email à quelqu'un. OK? Et chez Desjardins, ben, c'est ça, ils ont envoyé un email à tous. Faites attention aux bris de sécurité. Tout le monde se regarde et dit, c'est pas moi. Il se passera rien. Hey, j'ai le goût de te parler de la ville de Montréal un peu, Richard.
Ah oui, donc? Ah non, mais les travaux?
Hey, Richard, écoute, on veut attirer des touristes à Montréal cet été. OK? Et donc, qu'est-ce que ça prend pour des touristes? Ça prend des hôtels, ça prend des attractions. Bon, il n'y a pas de festival cet été. Il reste quoi? Il va rester des cônes oranges.
Non, c'est
les hôtels qui tapent du pied, là, qui disent, écoute, on veut remplir nos hôtels. Qu'est-ce qui va les attirer à Montréal? Si tu viens pas proche, tu n'habites pas proche du plateau Mont-Royal en ce moment, la rue est fermée. C'est cool pour ceux qui sont à côté, là. OK? C'est bucolique, puis on voit des dessins sur la rue, puis on va voir la mairesse promenant avec son sourire.
Mais même les commerçants, là, tu sais, ils déconfinent enfin, on va déconfiner, mais là, il y a des cônes oranges partout, ou alors on a transformé ta rue en piste cyclable, puis là, il n'y a plus personne qui veut aller magasiner chez vous parce qu'il n'y a plus d'endroit où stationner.
Ben non, tu sais, Richard, l'achat local, là, c'est pas juste local, c'est que tu veux que quelqu'un, mettons, du fin fond du rang où je suis en ce moment, dise, hey, il y a tellement de boutiques fantastiques sur Mont-Royal, je vais aller là. OK? Donc, admettons comme la licornerie qui était passée à l'œil du dragon, une place complètement flyée.
Mm-hmm.
Mais si tu veux aller là, c'est au coin de Saint-Denis et Mont-Royal.
Ils vendent des affaires de licorne.
Oui. Puis ça, oui. Il est flyé, le gars, il est super sympathique. Mais si tu veux aller là, tu as une autoroute cyclable sur Saint-Denis, pas de place de stationner, et tu n'as pas de place de stationner sur Mont-Royal. Donc, lui, il est pris à vendre aux gens de sur Mont-Royal qui habitent dans le quartier Mont-Royal. C'est pas ça, l'achat local. Écoute, tu le vois au dragon, ce gars-là, tu vas aller découvrir sa place. Ça se peut que tu descendes de Québec pour aller voir sa place. C'est pas possible.
Mmh.
Et ça me fait penser, tu sais, c'est du protectionnisme, là, à l'extrême, un peu, comme la Corée du Nord. T'sais, la Corée du Nord, là, c'est puis quand Trump a parlé de Make America Great Again, le monde a dit attention, là, le protectionnisme à l'extrême. La Corée du Nord est le pays qui fait du protectionnisme. Regardez, c'est la population la plus pauvre. Ils s'achètent entre eux autres des biens puis ils en font pas venir de l'extérieur. Moi, pour moi, aller sur la rue Mont-Royal, c'est une problématique majeure. J'irais pas l'aider.
Là, c'est parce qu'avant, là, c'était sur le plateau Mont-Royal que c'était le foutu bordel comme ça. Puis là, Valérie Plante, elle a tout le temps dit « Je ne veux pas transformer Montréal en plateau. » Ben, coudonc, c'est ce qu'elle est en train de faire.
Ben, définitivement. Et après ça, tu as toutes les constructions normales durant l'été. Est-ce qu'on aurait pu prendre une pause cet été pour dire « Regarde, on fera pas la vie dure aux touristes qui vont venir. » Parce que les touristes qui voient ça dans le journal ce matin, là, nous, on vient de Montréal, Richard, on est habitués, puis on peut marcher. Ça nous énerve pas trop, un cône orange. Mais quelqu'un qui n'a jamais été à Montréal puis voit ça dans le journal va dire un peu, il n'y a rien à foutre là-bas.
Mais il y en a d'un autre côté. C'est ce que nous disait Jean-François Guérin d'LCN ce matin. D'un autre côté, il n'y a pas de touristes parce qu'il n'y a pas de festival, mais c'est le moment d'en profiter pour faire tous les travaux qui doivent être faits. On va les faire là parce que de toute façon, il n'y a personne. Tu sais. Tu veux bien profiter
C'est un bon raisonnement, Richard, sauf qu'elle vient de mettre 22 millions sur la table, dont 10 millions pour attirer des touristes cet été. À un moment donné, il faut être consistant. Il faut dire, regarde, on n'aura pas de touristes cette année. On ne fera pas la promotion. Là. Elle vient de dévoiler un plan cette semaine de 22 millions pour relancer l'économie de Montréal. Mais relancer l'économie de Montréal, ce n'est pas en 2023. Donc, si tu mets 22 millions sur la table et tu fermes la ville, il y a une inconsistance, une incohérence quelque part. Là.
Ben oui. Non, complètement.
Tu ne mets pas de l'argent. Tu dis, écoute, on accepte cette année. On va en profiter pour retaper la ville. Elle va être belle l'année prochaine. Moi, je suis prêt à accepter ça. Mais pas 22 millions de notre argent de nos taxes.
Fait que toi, t'es sur ta terre, puis tu viens à Montréal le moins souvent possible.
Ben, je m'en vais là tantôt, là, parce que j'ai une réunion chez vous, parce que je fais de la radio cet été,
ben oui,
l'après-midi, avec Jean-François Barry.
Ben, parlons-en, d'ailleurs, tu vas être là tous les jours?
Tous les jours, entre 3h et 5h, je ne sais pas si c'est à 3h et 5 ou à 5h moins 5.
Entre 3h et 5h, à l'émission de Jean-François Barry, qui fait le retour, finalement?
Ben oui.
C'est cool, ça, tu vas pouvoir chialer pendant tous les jours.
Ben oui, mais je suis en bas de l'échelle. Moi, je travaille l'été. Tu sais, je suis. Pendant que les gros bonnets prennent des vacances. Mais toi aussi, tu n'es pas en vacances. Hein. Je pense que
non, je suis à l'émission. Oui, je suis à l'émission de Pierre Nantel vers 9h05, je crois, tous les jours aussi. Donc, Cube Radio continue. On a une programmation estivale. Écoute, je te souhaite un excellent été. Je vais t'écouter, bien sûr. Et nous autres, on va se reparler fin août, début septembre, mon cher François.
Ben, passe un très bel été, puis au plaisir de se revoir autour d'un bon repas éventuellement.
Certainement. Salut à tes abeilles. Ben, François Lambert.
Salut.
Salut. Jonathan.
Si, Paul, t'as commencé à prendre des bonnes habitudes la dernière semaine de la saison, finalement.
9h50.
Des fois, je suis même pas branché à cette heure-là, puis je me dis, bon, il me parlera pas avant encore 6-7 minutes. Genre, j'étais là.
Puis c'est tout le temps sur mon line-up, c'est tout le temps 9h50, parler avec. Puis là, on est top, là. On est dedans.
Wow! Mais sincèrement, je sais pas qu'est-ce qu'on va se dire pendant 7 minutes. Là.
Je sais pas, je cherche, là. C'est-tu le foutu bordel comme ça à Québec? Y a-tu des cônes oranges partout? C'est pire que jamais, là. À Montréal, c'est pire que jamais.
Ouais, ben non, mais c'est sûr que ça se comparera jamais à Montréal. Moi, je suis un petit peu encore... on n'est pas confiné, hein, mais on n'est pas surtout non plus, là. Ça fait 2 jours d'affilée que je vais dîner au restaurant. Pour la première fois, j'ai été dîner de l'autre côté du pont, donc du côté de Québec, mais je me suis pas rendu dans le centre-ville. Mais je peux dire que même ici à Lévis, on sent déjà le fait que les villes vont vouloir accélérer les travaux dans les infrastructures routières parce que, bon... en fait, sais-tu quoi? Je sais plus si c'est si vrai que ça. Hein. Quand ils ont tous décidé de faire ça, ils se disaient « ben ça va être plus tranquille cet été. T'sais, le monde va moins bouger. Il y a bien des gens qui travailleront pas, qui vont être encore au chômage, à la PCU, etc. Donc, on va en profiter, on va faire des travaux, parce que ça va avoir moins d'impact. » Mais là, la réalité, c'est que l'activité reprend pas pire, là. Mais malgré ça, il va y avoir des travaux partout.
Mais attends, tu me disais, là, tu me titillais, parce que vous autres, à Québec, vous pouvez aller depuis une semaine dans les restos.
C'est vrai, pas vous autres.
Nous autres, ça commence lundi. C'est comment, l'expérience resto? Parce que, tu sais, c'est le fun d'aller au resto, parce que c'est convivial puis trippant. Mais si tu vas au resto puis ça ressemble à un laboratoire, pas sûr que c'est aussi le fun.
J'ai aucune différence.
Ah non?
J'ai vu aucune différence, mais il faut dire que j'ai été dîner 2 fois sur une terrasse. Une fois ici à Lévis, puis hier sur une terrasse là, sur le boulevard Laurier à Québec. Et donc, tu sais, l'affluence est pas encore optimale. Là, les gens commencent à sortir. Puis comme je le mentionnais hier à l'émission de radio, puis je retestais ça avec la serveuse au restaurant hier, il y a pas juste la crainte. T'sais, on pense à la crainte, les gens, est-ce qu'ils vont avoir la crainte, mais il y a de redévelopper le réflexe de penser d'aller au restaurant. On a comme perdu ce réflexe-là, là, tu sais. Moi, avant-hier, quand je disais à ma blonde, on était en congé, j'ai dit, hein, j'ai une idée de fou, on va-tu dîner au restaurant? Les deux, on a fait, ben, voyons, on n'avait pas pensé à ça, tu sais. Il va falloir recommencer à y penser, mais bref. Moi, les deux endroits où j'ai été, tu rentres, petite bouteille de Purel, tu te laves. Comme je disais à Maud hier, tu sais, ce qui est drôle, c'est que là, quand le serveur ou la serveuse te dit, suivez-moi, puis il t'amène à ta table, tu y laisses une longueur d'avance à cette heure, tu sais. Avant, il partait, puis tu partais en même temps, là, comme une course de Formule 1. Là, oui, les rouges s'éteignent et on roule dans la salle du restaurant. Mais là, les rouges s'éteignent, puis tu laisses partir le serveur, tu sais, puis tu comptes comme là, 0,5 mètres, 1 mètre, 1,5 mètres, 2 mètres. OK, go, on peut y aller. Mais sinon, tu vois, moi, les deux endroits où j'étais, donc, pas de masque, des visières.
OK.
Soit dit en passant, je suis pas certain que c'est optimal. Je veux pas faire le trouble-fête, mais si on veut protéger les gens... La visière, est-ce que c'est optimal? Je le sais pas. En même temps, je suis conscient que visière plus masque, pas évident non plus pour les serveurs. Mais sinon, là, je te dirais que la grosse différence, là, c'est que il faut que tu écoutes comme plus attentivement ton serveur ou ta serveuse parce que tu entends moins bien. Mmh. Mais sinon, là, tu sais, ils sont pas venus me porter, là, les plats avec une pôle de 12 pieds.
Pis OK,
mais
sinon,
c'est sûr que pour eux, c'est plus compliqué parce qu'ils doivent désinfecter chaque place après quand le client part. Mais toi, quand tu pars, tu le sais pas, t'es pas là, là.
Écoute, on va essayer ça lundi. Et comment tu trouves ton homme, Jang-Mi, tu trouves?
Mon homme?
Ben, tu sais, quand on faisait de la radio ensemble, tu trouvais qu'il y avait du swag, tu l'aimais bien, Jang-Mi, tu le trouvais trippant, non?
C'est pas vrai, c'est ça que tu dis là.
Ben oui! Ben non, oui, tu trouvais qu'il y avait du swag.
Jackie Singh, pas Jack Meeting. Non, c'est pas vrai. non, j'aime mieux Jack Meeting que Jackie Singh. Je trouve que c'est épouvantable ce qu'il a fait.
Épouvantable.
Je trouve ça épouvantable. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont liés pour me faire virer souverainiste cette semaine. Il y a comme un plan, là, il y a un master plan à quelque part. Ils se sont dit, il y a Trudeau, là, avec la loi 21, là, il avait fait une coupe de sortie comme quoi qu'il était à veille de devenir souverainiste. Mais tu sais, je m'étais calmé depuis ce temps-là. Là, tu sais, je m'étais calmé, je pensais à mes rocheuses la nuit, puis tout ça. Puis ouais, Canada, j'aime ça. Mais là, cette semaine, là, quand je regarde la course des conservateurs, le débat en français complètement ridicule, je suis en train d'écrire ma chronique là-dessus pour le journal de demain. Jack Meeting qui pense que si tu ne reconnais pas le racisme systémique, t'es un raciste. Écoute, genre, on n'a pas eu l'occasion de s'en parler là, depuis la saga, là, tout ce qui touche le racisme, le traitement de la police et tout ça, mais avec bien des avec des gants blancs là, et des nuances, moi, je reconnais une forme de racisme systémique. Donc, imagine, techniquement, je suis dans la gang à Jack Meat. Mais même à ça, en tant que Québécois, je suis profondément, profondément insulté, choqué que le chef du NPD vienne nous faire croire que tous ceux qui ne reconnaissent pas le racisme systémique, alors qu'il y a je ne sais pas combien de définitions, là, qu'il faudrait tout d'abord s'entendre sur une définition commune, tous sont des racistes, voyons donc.
Le Bloc venait de voter pour le fait qu'il y ait une enquête du comité d'éthique sur l'existence possible de racisme systémique à GRC, donc il faisait preuve de bonne foi, le Bloc, là.
Puis des motions, là, ça arrive tout le temps là, que des partis rejettent des motions parce que des fois, ils sont chicanés sur quelques virgules dans le texte. Bon, là, on parlait, je pense, de revoir aussi les fonds, les sommes. Tu sais, franchement, là, et moi, ce qui me fait capoter, c'est le fait qu'ils les répétaient à l'extérieur des murs parce que souvent, il y a des députés qui... On le voit moins un peu, parce que la politique, surtout au Québec, est rendue un peu moins agressive, là. Mais c'était... Je sais pas si tu te souviens, c'était légion avant d'entendre un député dire « Je le mets au défi de répéter ça à l'extérieur
oui,
de la Chambre. »
Oui, oui.
Parce que dans la Chambre, tu bénéficies de l'immunité parlementaire, donc tu peux dire n'importe quelle ânerie, tu seras pas poursuivi. Mais souvent, on met les gens au défi de répéter les propos à l'extérieur de la Chambre parce que là, tu peux te faire poursuivre pour diffamation. Et Jack Meeting, lui, il est sorti, puis il a été... Non, c'est raciste, là. Si vous votez pas pour cette motion-là, c'est que vous êtes raciste. Quelle insulte! Alexandre Boulris doit capoter, là. Il est tout seul au Québec du NPD, puis il doit se dire, ouf, OK, ça arrivera pas, là.
On avait-tu besoin, tu sais, déjà avec la pandémie, c'est déjà difficile ce qu'on vit, on avait-tu besoin de rajouter une autre crise par-dessus ça? Une autre couche?
C'est honteux.
Ça,
c'est carrément honteux comme sortie. Puis, hey, Justin Trudeau qui va défendre Jack Meeting.
Ouais.
Tu sais, Justin Trudeau ne l'a pas condamné. Au contraire, il le défend, puis il somme François Blanchet de s'expliquer et de reconnaître le racisme systémique. Que le premier ministre du Canada accepte qu'un parti au complet soit traité de raciste par un autre des chefs. Et qu'on parle du parti qui représente en ce moment une majorité des Québécois alors qu'il vient du Québec lui-même, il tolère cette gifle-là. C'est pathétique. C'est carrément pathétique. Incapable, le premier ministre, de s'expliquer sur la volée qu'il a mangée à l'ONU, sur le fait que tout le monde décrit la PCU en disant « Écoute, t'es en train de mettre des milieux à terre, là, avec ta PCU. Nos fruits seront pas ramassés, nos légumes non plus, parce que les Mexicains ils peuvent plus venir, puis les Québécois vont préférer rester sa PCU. Le Cosmos ferme en disant on n'est pas capable de concurrencer la PCU. Des entreprises manufacturières qui nous parlent de la PCU. Tu vois, il n'est pas capable de répondre à ça. Mais de sortir puis d'appuyer Jack Meeting, ça, il n'y a aucun problème.
Fourette.
C'est inquiétant. Je te dis, organisez-moi pas un référendum virtuel, là. J'étais de bonne humeur, tu m'as mis en table. J'étais de bonne humeur.
Ben, passe un bel été.
Et toi aussi. Ce serait le fun qu'on se voit cet
ben
été.
Ben oui. Écoute, wow. Je suis censé aller à Québec au courant de l'été parce que je veux absolument voir l'exposition de Frida Kahlo qui est à votre très beau musée des Beaux-Arts Québec. Donc, écoute, on va certainement se voir.
Et d'ailleurs, tantôt, Québec. Je reçois celle qui vient tout juste de finir son mandat comme chef du restaurant du Musée national des beaux-arts, Marie-Chantal Lepage, qui a mis de l'avant une initiative vraiment le fun. Tu sais, ça, c'est le genre d'initiative que je trouve ça... on est chanceux d'avoir un micro à radio parce que tu vois quelque chose passer, tu dis, voyons, c'est donc bien le fun, ça. M'a le partager avec le monde. Tu sais, m'a l'inviter puis je vais partager. Elle a acheté un gros Christine motorisé, là.
OK.
Pas un Winnebago, mais tu sais, comme les camions motorisés, mais 32 pieds, là, avec des slides qui sortent de chaque côté. Elle a tout ornipé de luxe. Et elle offre une formule où tu loues le motorisé. Et elle, chef reconnu, là, tu sais, incroyablement reconnu, Marie-Chantal Lepage.
Mais oui, c'est bon.
Par tous tes plats sous vide. T'as ton menu sous vide fait par Marie-Chantal Lepage. Fait que tu manges comme de la bouffe d'une grande chef québécoise, des produits du terroir, mais dans ton motorisé, que tu fais juste faire réchauffer ça. Puis ça, moi, je trouve ça incroyablement hot comme idée. Visiter le Québec, profiter des produits du terroir, encourager la restauration.
Ben je trouve
ça, c'est un cocktail merveilleux.
C'est excellent. Des bonnes nouvelles.
Oui, ben il faut bien.
Ben bien. Écoute, passe un très bel été. On va se voir cet été, c'est sûr qu'on va aller à Québec, Sophie et moi, avec Fiston. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à vous, aux auditeurs, aux auditrices qui faites confiance à Cube Radio, qui nous écoutez. C'est très important. Passez un excellent été. Emmagasinez du soleil, emmagasinez des vitamines, des relations, le fun, des fous rires, tout ça, parce qu'on ne sait pas, septembre, octobre, est-ce que ça va être dur, va-t-il avoir une deuxième vague, on va-tu reconfiner, j'espère que non. Merci à Maud Boutet, merci à Hugo Veilleux, merci à Achille Moinet. Passez un super bel été. Moi, je suis de retour comme chroniqueur lundi à l'émission de Pierre Nantel. Bon week-end, bye.